Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
And who the hell are you anyway?
I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of Castorberus. I'm 903 years old and I'm the man who's going to save your lives and all 6 billion people on the planet below. You got a problem with that?
No.
In that case, allons-y!
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, fucker.
24 quarks secondes. Nous sommes le 16 décembre 2015, bienvenue au 39e épisode de 24 quarks secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Et avec nous aujourd'hui, on est très content d'avoir deux invités. Ils sont les réalisateurs du long métrage indépendant Sans dessin qu'on avait découvert à Fantasia en 2009, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Que malheureusement j'ai pas vu, je n'ai jamais vu.
Ben, moi je m'envole.
C'est Caroline Labrèche et Steve Léonard. Bonjour.
Hello.
Bonsoir.
Ben, ça nous fait bien plaisir de vous avoir avec nous.
Ben, ça me fait très plaisir aussi.
Ouais. Ça, on verra à la fin. Tu sais.
Oui, exactement. Ben, comme c'est là, on m'a donné de la bière gratuite.
Donc, moi, je bois du thé.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, 24quarks.com et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions ou quoi, vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com. Et donc, depuis le temps qu'on y fait allusion, il était temps qu'on passe à travers ce fameux Doctor Who.
Oui, parce qu'on a commencé une série sur le voyage dans le temps. Et ouais, le premier, c'était quoi, Back to the Future?
Non, c'était... Non, c'était avant. Oh là, il faudrait que je reprenne la liste sous les yeux. Là, j'ai aucune mémoire.
Le premier qu'on a commencé, c'était 12 plus... Monkeys, peut-être?
Peut-être 12 Monkeys, ouais.
On a commencé avec 12 Monkeys.
Tu devrais juste retourner dans le temps pour vérifier ta liste.
Et puis, en fait, on va terminer la série avec Doctor Who. Parce qu'on pourra en faire d'autres films de voyage dans le temps, mais on verra plus tard.
C'est une belle manière de conclure, en plus.
Ben oui.
Parce que c'est vraiment... ça touche tellement de choses.
C'est l'incontournable.
Donc, alors, en l'occurrence, donc, comme je l'ai dit très souvent, moi, je ne connaissais absolument pas Doctor Who. Donc, pour moi, c'est la grande nouveauté. Je savais que c'était une série qui existait depuis les années 60. Mais pour le podcast, là, en tout cas, moi, j'ai commencé à partir de la suite de 2005, enfin, de la reprise de la série en 2005, parce qu'il y avait eu un long break, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, de mi-80 à 2005, il n'y a eu aucun épisode de Doctor Who. Il y a eu un film de Doctor Who en 96 ou 98, qui fait partie du canon, qui fait partie de l'univers de Doctor Who, et c'est atroce.
C'est vraiment pas bon.
C'est vraiment atroce.
On peut dire que vous êtes deux spécialistes quand même.
Ouais, c'est
Doctor Who, parce
ça.
Que
spécialiste.
Ben c'est pas spécialiste, ben, mais
autour de la table peut-être.
Ouais, autour de la table.
Je dirais Steve, oui, moi je suis plus une fan, mais pas spécialiste du tout là, mais.
Comme on se parlait un peu tantôt avant, mais moi j'ai pris le temps d'aller trouver tous les vieux épisodes depuis le premier épisode de Doctor Who, de toutes les écouter en ordre. Puis quand tu tombais sur des reconstructions, parce que la BBC a eu une politique dans les années 70 d'effacer des cassettes pour pouvoir réenregistrer par-dessus. Ah, donc, ils ont scrappé plein d'affaires.
C'est fou.
Fait que là, il y a des épisodes de Doctor Who puis de plein d'autres programmes qui n'existent plus. Mais les bandes audio existent encore. Fait que là, il y a des fans qui ont pris les bandes audio et des images de plateau. Wow. Et qui ont reconstruit certains épisodes. Et moi, j'ai pris la peine de les visionner.
Oui, t'es assez connaisseur quand même.
Vraiment un pur et dur.
Fait que je suis calme.
Moi, je pourrais aller jusqu'à là.
Je pense qu'on dit geek pour ça.
Ouais, geek. Ouais, mais geek, mais tu sais, je suis comme sur la falaise, puis si je tombe, c'est cave en bas.
C'est ça.
Wow. Non, ouais, t'es un puriste. T'es un puriste.
Voilà.
Ouais. Mais
continue ton intro.
Non, mais on rentre déjà dans le vif du sujet, mais non, juste avant ça, en fait, je voulais parler un petit peu de vos projets à vous, parce que je parlais tantôt de votre premier film sans dessin, de 2009. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Est-ce qu'il est, il existe en, quelque part?
Oui, mais il existe en DVD.
OK, cool.
Il est aussi sur Internet, okay. Sur YouTube.
C'est cool.
Il y a des personnes qui ont mis le film sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi.
C'est qui aurait fait ça?
La seule raison que je verrais, ça serait peut-être parce que le distributeur n'a pas bien distribué le film. Ou peut-être que ça ne s'est jamais rendu en Europe.
Mais bon.
Il y a des gens qui l'ont mis sur YouTube.
Tout le monde peut le voir.
Oui, tout le monde peut le voir.
Mais vous devriez l'acheter en DVD.
Mais oui.
Ouais, mais non, même pas. Parce que si vous l'achetez en DVD, l'argent va au distributeur. Puis non, mais on n'a pas d'argent là-dessus.
C'est vrai?
C'est ça qui est. Non, on a zéro.
On fait zéro. Ouais, mais il y a des tours de passe-passe qui sont faits.
Triste.
Quand un grand distributeur prend ton petit film, ça donne qu'il n'en vend pas assez de copies pour récupérer les coûts d'impression de posters et de DVD et de distribution. Donc, nous, on reçoit des rapports tous les trois mois qui disent « Ah, votre film est encore dans le trou, donc vous ne faites pas d'argent. » Nous, ça ne nous engage à rien. C'est-à-dire, on ne doit pas de l'argent au distributeur, rien de ça. C'est plus que le film ne fait pas de profit.
Okay.
Donc, nous, tant que leur facture n'est pas à zéro, ben il n'y a pas d'argent qui rentre de plus, donc nous, on ne verra rien d'autre.
Mais bon,
en tout cas,
pour nous, l'important,
c'est
que les gens voient le film.
Ouais.
Que ce soit sur DVD ou sur YouTube.
À part à Fantasia, il n'est jamais sorti en salle, si, non?
Pas en salle, non, parce qu'au Québec, comme pas mal partout dans le monde, si tu fais un film et il n'y a pas de personne de connu dedans...
C'est difficile d'aller en salle, vraiment.
On aurait pu faire
tu fais la tournée des festivals.
Oui, c'est ça. Donc, on a fait Fantasia, Spasme, les rendez-vous du cinéma québécois, puis quelques autres endroits un peu obscurs, là, tout ça. Mm. Mais c'est ça.
C'était une comédie?
Oui.
Une comédie à tendance science-fiction ou fantastique?
Décris ça, Caro.
c'est une comédie fantastique, romantique... Il y a un peu de tout, en fait.
Parce que Fantasia, Spasme, tu sais,
j'ai
vu la programmation.
Bien, à la base, la matrice du film, c'est la matrice d'une comédie romantique. Donc, c'est un boy meets girl, puis là, il y a des problèmes, puis blablabla. Mais on a mis du fantastique là-dedans, puis on a plus une structure ou un ton de film américain, disons. Tu sais, des comédies stupides là, avec Will Ferrell ou Adam Sandler ou n'importe quoi, tu sais. On voulait pas faire un film qui était juste un film de plateau, disons, là, de plateau Mont-Royal, là, que c'est juste des gens qui se promènent dans la rue puis qui se trouvent drôles entre eux autres.
Le Coroberge.
Non, c'est une joke, j'ai même pas vu le Coroberge. Je suis sûr que c'est super bon. Fait que, non, c'est ça. Donc oui, notre histoire à la base, c'était un loser de 30 ans reçoit la visite du fantôme de son soi-même du futur.
Le vieux
bonhomme est mort, puis il revient dans le temps, puis il essaie d'enligner le gars de 30 ans pour lui dire, ben, t'as un nouveau destin maintenant, puis il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas avoir une vie horrible et poche. Mm. Donc, ça, c'est un peu le concept de base.
Ah, c'est bon. C'est super bon.
Mais c'est ça. Ça a bien fonctionné en festival. Ça a été bien accueilli. Après ça, on a été distribué, dans les Vidéotron, puis après ça, ça a sorti sur Indigo. Illico. Ouais, Illico. Puis après ça, c'est juste, ça a disparu. Puis après ça, mystérieusement, c'est apparu sur YouTube. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a plein de gens partout sur la planète qui peuvent voir le film, autant en anglais qu'en français, parce qu'on l'a sous-titré.
Puis là, vous allez vers un autre projet maintenant? Vous avez...
pas nécessairement... On peut pas dire nécessairement à cause de Sans Dessin, mais disons que Sans Dessin est une étape...
Avoir fait un long métrage, ça te permet d'en faire. Ça donne
À cause de Sans Dessin, on a rencontré des gens. Après Sans Dessin, on a commencé à aller plus dans des cocktails, on s'est tenu plus dans les festivals, fait qu'on a rencontré des gens. Mm. Puis à force de rencontrer des gens, comme Marie-Louise,
qui nous donne de la bière gratuite.
c'est ça. C'est
vrai, c'est des avantages. Hein. De boire en buvant,
c'est beau ça.
Fait qu'à cause de ça, on a pu, juste multiplier les meetings, rencontrer des gens, blablabla. Puis là, si tout va bien... on s'est associé récemment à Emma Film, qui est la maison de production qui a fait Turbo Kid.
C'est bon, ça.
Donc là, on est associé avec eux. Puis si tout fonctionne bien, peut-être que l'année prochaine, on peut faire un long-métrage. Cette fois-ci, pas une comédie. Ce serait plus un thriller. fantastique, disons. Un thriller avec du fantastique.
Mais dans, ça, moi, ça me fait penser un peu à l'histoire que tu aurais dans Twilight Zone.
Oui, vraiment. Oui, totalement.
Parce que j'ai pas lu votre scénario, mais je commence à en connaître assez vite ouais. que pour mon feeling, c'est comme genre, c'est un fantastique, mais un fantastique intelligent, là, pas un fantastique genre. Tu sais, des fois, le fantastique, c'est comme de l'horreur cheapette, là. Mais
ah
genre,
non, non, c'est pas ça du tout.
C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment fantastique avec une bonne twist. Puis,
dans notre document de présentation, on dit toujours que c'est Memento rencontre Twilight Zone.
Bon, ben voilà.
Fait qu'il y a vraiment un truc sur l'amnésie, la mémoire, mais en même temps, c'est une situation fucked up dans un vrai monde. Ouais. Fait qu'on y va avec ça. Puis
ça rend vraiment ça, mais j'ai tellement hâte de voir ça.
Ouais, nous autres aussi, on a bien hâte.
C'est à suivre.
Mm-hmm. Pas de petit synopsis, de petit. Non,
je pense
on garde
pas
ça
pour.
Mais est-ce que votre proof of concept n'est pas disponible sur Internet? Non, c'est pas quelque chose. OK.
Non,
parce que ça... quand c'est intéressant, mais c'est quand même mieux
de
le montrer.
De quoi? Quelle était ta question?
Le proof of concept.
Ah, okay,
donc,
okay.
La vidéo qui a servi à. Ben, à
qui accompagnait le scénario.
Qui accompagne ouais. le scénario puis qui sert à vendre le film.
Oui, c'est pour générer. Parce qu'on a, on a joué la grosse game, on est allé aux États-Unis, on a voulu rencontrer des producteurs. Puis là, la joke, c'est personne ne veut lire ton scénario parce qu'ils ne te connaissent pas. Donc, on se dit, on va tourner comme une petite scène du film, un genre de 5 minutes pris en plein cœur de l'action. On va tourner ça, puis on va envoyer ça aux gens. Puis là, ça va générer de l'intérêt. Puis on va dire, oh, wow, c'est quoi ça? Je veux lire le scénario. Puis ça a marché.
Ça a marché. Ouais.
Ça a marché. On était associés à Les Américains pendant un petit bout de temps, mais ça, après une couple de mois, ça a un peu foiré, là, parce qu'on avait des visions totalement différentes. Donc, on a dit, OK, ben on retourne au Canada. Puis là, ben on a rencontré
Anne-Marie
chez Emma Film, puis ça fonctionne.
Ah, c'est cool.
Ben, voilà.
Ben,
mais tout ça pour dire que cette scène-là n'est pas disponible au public. On ne veut okay. pas la montrer ouais. parce qu'elle révèle quand même un point tournant qui arrive à 10-15 minutes dans le film.
Dans le film, oui, c'est ça.
Mm. Puis éventuellement, s'il y a des bandes annonces, puis tout ça, on n'aura pas le choix de faire allusion à ça, là, parce que c'est ça qui va donner le goût aux gens. T'sais, comme si je te parle de Star Wars, puis je te montre pas un sabre laser un peu, ça serait con, là, mettons.
Mm.
Mais on va falloir montrer notre sabre laser.
Okay.
Mon astuce, c'est plus grande que la tienne.
Oh, le lien avec Star Wars qui nous a fait, là.
Tintin, les nouvelles!
Non, je veux même pas. Avez-vous hâte d'aller voir Star Wars?
Ben.
Caro?
J'ai hâte de le voir. Mais je
t'es pas pressé,
je me je suis pas pressée,
ouais, pas pressée.
De le voir, non. Ouais. Je suis pas une méga fan ou geek de Star Wars, je suis désolée.
En fait, Caro a toujours aimé Star Wars, c'est juste que là, c'est rendu dénaturé, Star Wars.
Non, on a tellement pense, été... Je pense que c'est ça qui m'énerve.
Les,
oui.
Un, deux, trois, puis là, t'es rendu...
Ben, j'adore, c'est ça, j'adore les...
Les originaux.
Les originaux.
La trilogie originale.
Mais
ouais.
Je sais pas, on en parle tellement, il y a tellement de...
Ben, ça a l'air,
c'est, phase,
ça a l'air que c'est proche de la trilogie originale, quand même.
Mais j'ai hâte de le voir, là. J'ai vraiment hâte de voir le film, mais je ne ressens pas l'espèce d'excitation que tout le monde a.
L'urgence d'y
ouais.
aller.
Ben, c'est ça, c'est juste, ben, je vais y aller, ouais. mais on,
moi,
se calme, on se calme.
Parce que là, le jour où on se parle, on est deux jours avant la sortie, c'est ça? Mais
ouais, c'est ça,
à la sortie du podcast, il sera dans les salles.
Quand le podcast va être sorti, vous allez m'entendre parler. Quoi qu'on puisse,
l'Internet va déborder.
Ouais, c'est ça, l'Internet, il n'y aura plus de vidéos de chats, il n'y aura plus de porn, ça va être Star Wars.
Non, ça va être des chats avec des sabres laser.
Du porn avec des sabres laser.
Mais ça, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Ça. C'est déjà le cas. Le marketing est impitoyable.
Moi, personnellement, je vais être plus excitée quand que Star Trek va sortir.
Ah ouais.
Ça, je vais être... Je suis vraiment une petite fille énervée de ça. Là.
Il y a un trailer pour le nouveau Star Trek.
Oui.
Toi, t'es fan de Star Trek.
Oui.
Moi, j'aime plus Star Trek que Star Wars.
L'as-tu vu, le nouveau trailer du prochain Star Trek?
Non. Moi, je vis dans un monde à part qui s'appelle Travailler.
Ouais, non,
c'est quoi, ça,
c'est
Travailler?
Quoi? Comment on prononce ça?
Trailer, ça te prend deux minutes.
Non, mais je suis vraiment dans une autre dimension.
OK, d'accord.
Dans cette dimension-là, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, j'en suis sortie pour venir faire le podcast.
Bon. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du trailer du nouveau Star Trek? Ouais.
Je me dis, waouh, c'est du. Enfin, je vois ça, je me dis, waouh, Star Trek, c'est vraiment devenu du cinéma d'action, là.
C'est ça.
Attends, le trailer, c'est parce que c'est que de l'action.
Ouais. Non, mais c'est ça,
c'est
mais
de la grosse bande-annonce de film d'action.
Musique,
c'est sabotage de Beastie Boys pendant le trailer.
Quand on a fait la revue du dernier Star Trek, c'était mon gros reproche. J'étais comme, regarde, moi, là, le Star Trek. Les vieux, j'ai essayé de tout écouter.
Mm-hmm.
Les Next Generation, j'en ai vu plein. J'ai beaucoup, presque une majorité. Puis j'ai adoré ça. Puis c'est comme une sorte de science-fiction intelligente, là, basée sur...
Ça se traduit mal en film, parce que puis, t'as juste 2 heures.
Je suis pas d'accord. T'as des films. Oui, mais ça pourrait être une histoire. Non, non, mais attends, ça se traduit mal. Ouais. Ça se traduit mal en film. Ben moi, le premier, si t'es un producteur hollywoodien qui veut faire un film d'action.
Je suis un des rares gros fans du premier film de Star Trek.
Oui, mais justement, c'est une franchise qui n'est pas basée sur l'action.
Le premier, le Star Trek
The Motion Picture,
de Robert Wise, oui. C'est je suis un des rares fans de ce film-là.
Mais non, mais ça, c'est comme une chose de ce scénario.
On préfère, c'est vrai. C'est juste que des lents travelling le long du corps de l'Enterprise, c'est comme, OK, oui, Robert... Oui,
c'est total, mais après ça, on peut tuer...
Ça, c'est sûr.
Mais ça a toujours été la...
C'est une bande démo pour l'ILM aussi. Hein.
Ouais. Mais Star Trek, il y a toujours eu une, je vais utiliser un beau mot ici, une dichotomie entre la série et les films. Parce que la série, effectivement... C'est des histoires un peu plus psychologiques, un peu plus philosophiques.
Ils prennent leur temps.
Beaucoup d'exploration, tout ça.
Il y a des belles explorations de la science-fiction aussi. Oui. Il y a des trucs. Moi, un des épisodes préférés, c'est... continue, excuse-moi.
Mais regarde, tout ça pour dire que dans les films, c'est toujours plus basé sur l'action. Tu sais, tu regardes First Contact, puis tout ça, c'est comme les Borg attaquent, vite, on donne un gun à Jean-Luc Picard, man, let's go, il y a une mitraillette dans les mains, puis il tire un fou dans le tas, là, tu sais. C'est, à la limite, les films dénaturent presque Star Trek à chaque fois, tu sais.
Mais là, c'est de là, pire en pire.
De pire en pire, non. Je trouve que le reboot, moi, je le trouve vraiment cool. Parce que
moi, j'ai adoré
le reboot
premier, le premier
de
JJ, j'ai vraiment
pire. Le deuxième, j'ai pas eu... J'ai eu des problèmes dans la mesure où peut-tu être encore moins original? Hey, le premier Star Trek 2, c'est Wrath of Khan. Là, on fait un reboot. Fait que notre deuxième film, ça va être Wrath of Khan. C'est juste calisse, pour vrai.
Sauf que c'est pas aussi bon que Wrath of Khan.
Non. Ramenez-nous Khan dans 6 films, là, c'est correct. Là, mais là, ils font vraiment la même affaire.
Ouais, ça, c'est weird.
Ouais, puis le petit côté de la moyenne à la fin que tout le monde pleurait.
Fait que la bande-annonce du Beyond, là, c'est, je ne sais pas trop quoi en penser. À part que, comme tu dis, là,
c'est juste de la bataille. En fait, le trailer de Star Trek Beyond me faisait penser à si on avait à faire un épisode de Stargate avec ben de l'argent.
Ouais.
Il y avait quelque chose de comme, on est sur une planète avec du monde un peu trop maquillé, puis il y a de la bataille. Puis Stargate, on aime ça, on pourrait faire un podcast sur Stargate, à la limite, mais...
On prend
on n'a pas des podcasts qu'on peut faire, je suis sûr.
Le trailer commence avec la destruction de l'Enterprise, puis l'équipage qui atterrit sur une planète, puis qui rencontre une race. Fait que là, c'est juste, OK, fait qu'ils vont rencontrer une race, il va y avoir un conflit entre deux races, ils vont en aider une des deux, ils vont se battre à coups de poing.
Fait que ça devient, c'est juste un film.
Là, tu parles de
la guerre. Du trailer du nouveau Star Trek.
Ça, j'étais pas content. C'est rare que je mette un commentaire sur YouTube. J'ai mis un commentaire sur YouTube. J'ai marqué It's just not Star Trek. Tu sais, c'est comme je le file pas.
Ok, mais attends, moi je pense qu'il y a de l'espoir parce que quand t'aimes un trailer, genre les trailers de Prometheus, c'est un bel exemple, on les trouvait bons.
Ouais, mettons.
Quand on a vu le film, on a fait d'or. Ça arrive souvent que t'es déçu du film si c'est un trailer.
Fait qu'on va y aller avec l'inverse qui serait logique.
J'espère que qu'on va être vraiment surpris puis que ça va torcher là, parce que moi j'ai vraiment hâte.
Bon, puis notre Doctor Who, alors.
Faire un résumé de Doctor Who.
Juste pour signaler qu'on a, j'ai trouvé un petit rouge canadien, en plus un petit pinot noir qui s'appelle Angel's Gate.
Que juste toi et moi buvons parce qu'on est nos deux amis.
Ils sont plutôt à la bière.
Ouais, je bois la bière puis je rate à côté du micro.
Mais voilà, donc pour ceux qui auront compris la référence de Angel's Gate.
Weeping Angels.
Et donc c'est ça. Et oui, alors donc en général, je fais un petit résumé. Et là, j'ai pas fait ma job. J'ai pas préparé mon petit résumé.
Comment résumons?
Je suis vilain.
Steve est bon pour résumer. Ouais. Vas-y, Steve.
Wow, Doctor. Okay. On peut commencer avec knock knock.
Who's there?
Doctor.
Doctor Who?
Exactly.
Voilà, c'était le résumé de Doctor Who.
OK, bye.
L'histoire de Doctor Who, mais finalement, c'est les aventures d'un extraterrestre qui voyage à travers le temps et l'espace et qui arrive de multiples aventures. Parce que,
accompagné de ses fidèles amis.
Accompagné de ses fidèles compagnons. Donc, fidèles, pas forcément,
souvent,
mais.
Ils sont souvent des femmes.
Dans le TARDIS. dans une boîte bleue qui se veut être un vaisseau spatial interdimensionnel parce qu'il est toujours dans la même dimension mais
intertemporel
et qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur dont son nom le TARDIS Time and Relative Dimensions in Space, qui est doté d'un un chameleon circuit qui est cassé.
Qui est cassé.
Parce que l'idée, c'est qu'un TARDIS, tu peux atterrir n'importe où, puis là, ben, il prendrait la forme ou l'image de ce qui l'entoure. Donc, il pourrait avoir l'air d'un McDonald's ou d'une Fiat 500 ou n'importe quoi. Mais là, le TARDIS, il est cassé depuis longtemps, puis il ressemble à un police box des années 60, qui était une genre de cabine de secours qu'il y avait sur les coins de rue, que si jamais tu étais dans la merde, tu pourrais aller cogner, puis peut-être qu'il y avait une police dedans. Ou,
en Angleterre
seulement. Ouais. C'était une cabine aussi où les policiers de coin de rue pouvaient aller se réchauffer, prendre un petit café, puis blablabla, en tout cas. Fait que dans les épisodes des années 60, ça faisait bien du sens, mais ils ont réglé ça vite, dès le premier ou deuxième épisode, comme quoi que le circuit est cassé, puis la boîte est pognée comme ça, fait que ça donnait une chance aux gars de props de pas bâtir d'autres props. Mais bref, fait que le docteur, qui est un Time Lord de la planète Gallifrey. Qui s'est sauvé avec une machine comme ça, il y a longtemps. Puis il se promène, puis il veut juste découvrir. Il est un peu comme un Sherlock Holmes ou un Dr. House, où il veut juste vivre des nouvelles affaires, puis résoudre des énigmes, puis se promener, puis c'est ça.
Puis, c'est vrai que son but n'est pas clair. Hein?
Ouais, c'est ça. Mais
c'est un explorateur.
Ouais, mais il se retrouve pas mal à sauver le monde souvent, quoi.
Oui, malgré lui. Ah,
c'est
ouais.
Ça.
Le trouble le suit, disons.
Ouais, ben on va écouter
c'est
un.
C'est son sens de responsabilité quand même.
On va écouter un petit extrait puis on revient tout de suite après.
People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
Yeah, I've seen this bit before. You said that sentence got away from you.
It got away from me, yeah.
Next thing you're going to say is, "Well, I can hear you."
Well, I can hear you.
This is impossible.
No, it's brilliant. Well, not hear you exactly, but I know everything you're going to say. Always give me the shivers a bit.
How can you know what I'm going to say?
Look to your left.
What does he mean by look to your left? I've written tons about that on the forums. I think it's a political statement.
He means you. What are you doing?
I'm writing in your bits. That way I've got a complete transcript of the whole conversation. Wait until this hits the net. This will explode the egg forums.
I've got a copy of the finished transcript. It's on my autocue.
How can you have a copy of the finished transcript? It's still being written.
I told you, I'm a time traveler. I got it in the future.
Donc tantôt, tu nous disais que toi, t'as fait l'expérience de Doctor Who depuis le début, quoi. T'as repris... T'as repris tout depuis les années 60. Puis, ouais. À date, t'as tout vu ou
Non, j'ai pas tout vu. Mais en fait,
non. Presque.
Non, pas presque. On est rendu.
Non, mais attends, moi, je vous ai invité parce que.
Moi, c'est fini. On a. Ben, en fait, nous, notre premier vrai contact avec Doctor Who, c'était que sur Internet, juste en me promenant sur un blog, j'avais vu comme quoi qu'il allait avoir du nouveau Doctor Who à la télé. Donc, pour moi, personnellement, Doctor Who, c'était quelque chose que j'avais peut-être entrevu à PBS quand j'étais jeune. Là, genre, puis j'étais comme, je savais même pas c'était quoi. Fait que là, j'ai vu, il y a quelque chose qui s'appelle Doctor Who qui s'en vient, puis ça allait être avec Matt Smith, qui est le 11e Docteur. Ouais. Fait que là, j'avais vu la bande-annonce de ça, puis j'étais comme, ça a l'air quand même cool. Je veux dire, OK, il y a des bébites en rubber, tout ça, mais il y a l'air d'avoir du budget, ça a l'air le fun. Fait que là, j'ai dit à Caro... Doctor Who va commencer au mois d'août. Est-ce que ça te tente de voir ce qui a été fait avant? Donc, on a téléchargé...
Waters of Mars.
Ouais, Waters of Mars puis The End of Time, qui sont dans le fond les deux derniers Christmas specials, les deux derniers épisodes avec David Tennant, qui est le 10e Docteur. Fait qu'on a dit, regarde, on va regarder ça, parce que c'est comme la fin qui amène à Matt Smith. On a dit, on va regarder ça, puis si on aime ça, on continuera à écouter ce qu'il y a avec Matt Smith ou je sais pas quoi.
Puis on s'est tellement attaché au personnage. Tu sais, on a écouté comme Waters of Mars, puis les deux épisodes de The End of Time, on braillait à la fin, là. Puis tu sais, ça a pris 3 épisodes, dans le fond, pour connaître le gars, puis on était vraiment accro. C'est comme, OK, faut qu'on l'écoute au complet, là. Mais pour vrai, je pleurais. Non, va-t'en pas, non!
Le spoilers, tout le monde...
Oui, spoilers.
Quand David Tennant se transforme,
Il dit clairement...
Ça tente pas, là. Il veut pas. Pis c'est tellement fort, là. T'es juste là,
ouais, t'es là, pis...
Oh, fuck, man! Fait que là, quand on a fini d'écouter ça, on a dit, OK, ben là, faut écouter tout. Là, t'sais, je veux dire, c'est-à-dire, on va commencer à 2005, qui est la nouvelle saison 1, disons. Fait que là, on a tout downloadé ça, pis on a recommencé. On a fait toute la saison, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à Matt Smith. Pis à travers tout ça, ben moi, j'ai fait des recherches, pis j'ai trouvé qu'il y avait des liens disponibles sur Internet pour voir les vieux épisodes. Fait qu'on a commencé à les écouter le soir, tu sais, en s'endormant. Tu sais, tu te couches dans le lit, puis on écoute un vieux Doctor Who, tu sais. Il y a quelque chose de le fun quand t'es déjà fan, parce que là, tu sais, soudainement, tu vois les premiers épisodes avec les Daleks, tu sais. Fait que là, tu vois, ils viennent d'où.
Il y a des références que tu comprends mieux, dans le fond, après, ouais. Parce que tu regardes les récents, puis ils parlent de tel truc qui est arrivé dans ses vies
mais
antérieures.
Mais c'est pas obligatoire.
Non, c'est
zéro, pas obligatoire. C'est juste bien. Que, c'est en le sachant, c'est le fun à maudit, ouais. Parce que tu regardes ça, puis c'est de tout ça qu'ils parlaient.
Puis est-ce que tu vois une valeur à ces vieux épisodes-là? Comme, tu sais, quand on écoute les vieux Star Trek, à l'époque, on les écoutait comme. Tu sais, moi, j'écoutais ça dans les années 70-80, tu sais, puis c'était. Encore récent, puis ouais. On aimait ça. Là, au bout de la TV des années 80, était pas bonne de toute façon, tu sais.
Non, donc, c'était pas mal l'équivalent, ouais.
C'était pas mal l'équivalent, là.
60, Star Trek, 80.
C'est ça, tu sais, c'est comme... Dans le fond, tu sais, t'avais pas... Mais est-ce que ça, t'arrives à retrouver quelque chose qui dit « Ah, il y avait quelque chose de spécial », parce que quelque chose de spécial, ça continue, Doctor Who.
Il y a quelque chose de... OK, je suis capable de me téléporter dans le corps d'un enfant dans les années 60, puis de dire comme « Wow, je veux écouter ça à chaque dimanche ». Mais, cela dit, il n'y a aucune bonne raison d'écouter des vieux Doctor Who.
Ben, c'est tellement cheap. C'est,
c'est pas juste cheap. C'est... Cheap, je suis capable de le prendre. On écoute des films de série B en crise. Le problème, c'est que... OK, le plaisir que je ressens en tant que geek à dire « Oh, wow, je suis témoin des balbutiements des Daleks ou des Cybermen ou tout ça. » OK, ce plaisir-là est beaucoup plus haut que le plaisir d'écouter l'épisode pour vrai.
OK.
Parce que le rythme est mortel. Mortel.
C'est clairement un autre genre de télé.
Il y a des histoires sur 4-5 épisodes quand il pourrait facilement faire juste une.
Parce que... Vraiment
courte. Là.
Parce que c'est l'époque, ça l'a changé. Hein? Il y a un gars qui avait fait une analyse de la télévision puis il avait dit il y a une époque, on avait comme 3 histoires en parallèle, okay? Puis c'était comme ça qui était beaucoup. Maintenant, on en fait 12. T'as 12 récits dans une série de télé classique, ça paraît peut-être pas, on s'en rend pas compte, mais il y a comme 12 récits qui se passent en parallèle. Tu sais, quand t'écoutes un Breaking Bad, t'as tous les personnages, ils ont chacun leur histoire, puis ça se passe tout en parallèle. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Là. T'avais comme 3 personnages qui avaient une histoire, puis les autres, il n'y avait pas d'histoire. Il y avait juste des
c'est des pawns qui étaient juste là.
Ils étaient juste là pour servir le récit de l'autre. Puis donc, du coup, on a passé à un autre niveau de télévision, là, complètement. Là.
Mais il y a quelque chose aussi avec ce show-là, puis la façon dont ce show-là était fait. T'sais, si on prend un épisode de Star Trek, Star Trek, mettons, des années 60, OK? L'épisode est efficace. Elle peut être un peu lente parce que le rythme, nous, aujourd'hui, c'est plus rapide, mais l'épisode est quand même efficace. Les personnages sont là. Il y a du A, mais
c'est le fun d'avoir un Star Trek.
Ça s'écoute encore. C'est capable
super
de faire.
Fun. Moi, j'aime ça.
Je me fous des costumes ou whatever. Il reste que c'est bon. Mais t'écoutes un Doctor Who qui a été fait la même année, tu vas vouloir te tirer une balle dans la face. Parce que, écoute, c'était dans le budget de la programmation pour enfants, OK?
OK, donc c'est... OK, d'accord.
Il écrivait ça sur un coin de table, il y avait 2 semaines pour le faire, c'était... OK, oui, on a un scénario, mais s'il faisait un scénario différent à chaque épisode, ça n'aurait pas été rentable, là. Il faut que tu fasses des costumes...
Non, fait que c'était juste on étire la sauce, il étire.
Donc, c'est super répétitif, c'est... Ce qui est bon dans ces vieux épisodes-là, t'écoutes le premier épisode, juste pour dire comme il arrive sur la planète, il découvre c'est quoi le problème. Cool. Après ça, skip les 5 autres, puis écoute le dernier pour voir comment il règle le problème. Il finit avec sûrement une caverne qui s'écroule, puis les autres qui s'en vont. Fait que je peux pas recommander. Il y a peut-être un six-parter dans les années 70 avec le 4e docteur. Celui qui a le long foulard. Là.
C'est qui, Tom Baker, celui, non?
Tom Baker.
Baker.
Oui, c'est ça.
Il y a un ou deux noms que j'ai fait comme une petite recherche. Mais...
Puis ça, c'est un épisode auquel, dans le nouveau Doctor Who, ils font référence à ça une fois de temps en temps, qui est le moment où est-ce que le docteur aurait pu exterminer tous les Daleks en même temps. Il y a un moment où est-ce que Tom Baker est debout avec 2 fils, c'est vraiment laid, il y a juste comme 2 bouts de fils électriques dans les mains. Puis là, il se questionne puis il dit « J'ai juste à toucher ces 2 fils-là ensemble et tous les Daleks meurent. Je pourrais faire un génocide, je pourrais vraiment enlever toute cette race-là de l'univers. » Puis, il le fait pas. Ça, c'est c'est peut-être le moment le plus fort à date de ce que j'ai vu de tous les vieux Doctor Who. Puis t'as Davros qui est là, qui est le créateur des Daleks, tout ça. Mais il reste que ça s'étire sur 6 épisodes. T'sais, j'ai quasiment le goût de faire un montage puis faire un épisode de 45 minutes avec qui est vraiment cool maintenant.
Un beau projet.
Tom Baker, il est là, puis il y a des belles conversations avec Davros. T'sais, il s'ostine les deux, puis le docteur est witty, puis il est intelligent, puis il est rapide. T'sais, le docteur qu'on connaît, le David Tennant, dans le fond. Mais ces moments-là, là, je peux même pas les compter sur ma main. Il y en a tellement pas beaucoup. Là. Tous les autres épisodes, c'est... Ils se sauvent, ils se font capturer, ils parlent un peu, ils se sauvent, ils se font capturer.
Mais c'était-tu pour enfants, en fait? Parce qu'à un moment donné,
j'allais poser cette question.
Il ne faut pas oublier, quand tu regardes même les épisodes pour enfants d'aujourd'hui, là, c'est quoi les trucs que tu m'as montré l'autre fois avec les bonhommes de couleur faits au Japon? Là?
What? Les bonhommes de couleur fait hijab, quoi?
Oui, c'est toi, là. C'est toi, pas toi, qui écoutais
les
ça?
Les bonhommes de couleur. Quoi? De quoi?
Ils sont habillés dans des espèces de soute couleur. C'est que le truc est tourné au Japon.
Oh, après ça, les Power Rangers.
Les Power Rangers.
Bon, j'étais comme, je voulais dire Power Rangers, mais je me dis, c'est pas ça. Là, parce
mais oui, ils sont en couleur, c'est un bien en couleur. Excuse-moi, je veux dire, les Power Rangers, c'est pas intéressant pour un adulte de regarder ça, tu sais. Toi, t'aimes ça?
Non,
t'es d'accord, c'est ça. Parce que moi, j'en écoutais un épisode avec tes enfants, puis j'étais comme, wow!
C'est affreux.
J'ai retenu les bonhommes de couleur.
Ouais, les Teletubbies qui se battent.
C'est à peu près ça.
And you can quote me on that.
Je pense que j'ai peut-être vu d'ailleurs un t-shirt avec genre
Et tu te rends compte qu'il va falloir qu'on mette
un Power Rangers,
il va falloir qu'on mette des Power Rangers dans les trucs dont on a parlé parce qu'on met les notes de toutes les discrétions
wow.
qu'on fait.
Ouais.
Donc quand on parle de quelque chose qui n'a pas rapport,
on mettra les Power Rangers.
Mais c'est ça. À chaque... Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que y a pas si ça a été fait pour enfants, c'est pas le même type d'histoire non plus, tu sais.
Non, puis les enfants, surtout dans ce temps-là, étaient émerveillés, disons, plus facilement. Là, donc,
déjà, il y avait moins de choses à la télé. T'avais, oui. Puis, donc, ça devait être assez unique, quoi.
Puis, okay. C'était des épisodes d'une heure.
Mais je suis surprise. Je pensais que c'était
non,
plus intéressant.
C'était du 20...
C'était des 20
minutes. Ça dépend. La structure de production a changé à travers les années. Il y a des fois, c'était des 45 minutes. Des fois, c'était des 22 minutes. Ça a passé de faire des two-parters à des six-parters, à des three-parters. Ça a vraiment vacillé d'année en année. Puis le budget...
Ouais, mais en majorité, les épisodes duraient une vingtaine de minutes, par exemple.
Il y a eu des épisodes qui durent 45 minutes. Okay. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en majorité, c'était
Mais en termes de voyage dans le temps, comment ils faisaient? C'était des costumes poches? Ou...
Il y a beaucoup d'épisodes... Puis ça, c'est peut-être les épisodes les plus plates. Ils servent des vieux décors de la BBC quand ils ont fait des drames historiques.
OK.
Donc, c'est comme... Ah, nous sommes chez les Romains! Fait que tu sais, mais ce qui arrive, tu sais, aujourd'hui, si on a un épisode de Doctor Who, ils vont être... Ah, on est chez les Romains... Et il y a des aliens dans le background, mettons, puis ils vont mélanger tout ça. Mais dude, ça a pris comme 15 ans dans Doctor Who avant qu'ils fassent ça. Dans un épisode où ils sont chez les Romains, là, ils sont chez les Romains. Puis le problème, c'est que, ben, il y a, je sais pas, tel clan qui compte tel clan, ou tel empereur qui est méchant.
Ça fait Star Trek un petit peu.
Ben, c'est pas mal tout le temps, ça, des guerres entre deux groupes.
Ben, c'est comme du pur voyage dans le temps ou retour dans le temps, puis visite différentes époques. C'est comme, ben, finalement, c'est comme pour faire découvrir aux enfants, voilà.
Un peu, oui.
D'une manière fun. Ah, voilà, ça c'était l'époque des Romains. Ah, ça c'était l'époque de, je sais pas.
Ça a pris, je pense, jusqu'au quatrième docteur avant qui lâche, il faisait pas toujours ça, mais c'est-à-dire un épisode qui est purement historique, ça a pris jusqu'au quatrième docteur, je pense, avant qu'il fasse pas ça.
OK.
Fait que c'est soit qu'il arrivait sur une planète, c'est soit qu'il arrivait, mettons, dans une époque comme chez les Mayens ou dans les hommes des cavernes ou des trucs comme ça, ou il arrivait sur une planète qui était weird. Comme il y a une planète dans le premier docteur, tout le monde est habillé en bourdon.
C'est vraiment
comme en bourdon. C'est comme des gens d'abeilles. C'est une planète d'abeilles. Ben, les costumes sont très laids. Puis en fait, ils sont sur la Lune. Je pense qu'ils sont sur notre Lune, mais ils découvrent comme quoi qu'il y a des espèces d'une race d'abeilles qui vivent là. Puis, incidentally, cette race-là, ils font allusion dans l'épisode qu'on a écouté tantôt. Colin. The Stolen Earth. Puis Journey's End.
Ah, c'est bon, ça, le solo.
Quand les Daleks volent la Terre, notre Terre, puis ils s'en vont la mettre parmi 27 planètes pour faire un engin, blablabla. Ouais. Le docteur puis Donna suivent la trace des abeilles. Ils disent, ah, les abeilles ont eu peur, puis ils se sont poussées, puis ils retournent à leur home world. Ben, c'est cette race-là.
Okay, il fait référence à ça.
Donc, nos abeilles qu'on a sur Terre sont des cousins de cette grosse race de bourdons-là qui était genre dans l'épisode 3 du premier docteur ever.
Ben, c'est sûr que ceux qui ont écrit la nouvelle saison, ils ont tout écouté.
C'est sûr. Puis nous autres, on fait comme, je sais de quoi ils parlaient. On s'en fout, là, honnêtement.
Ah, c'est bon. C'est
mais
super
bref, ça pour dire que les vieux Doctor Who... Je pense que c'est peut-être mieux de juste voir des clips sur Internet. Si ça t'intéresse vraiment, là, tu veux voir... Il y a des geeks qui ont fait des
mais
compilations
moi, j'avais
de tous les meilleurs bouts de Dalek puis de Cybermen.
Moi, j'avais commencé à en écouter des... puis effectivement, je me suis comme endormie dessus. J'ai comme fait... Tu sais, j'ai fait « Ah, ben, j'ai pas écouté le bon, là, tu sais. J'ai abandonné. »
C'est un très bon somnifère, effectivement.
Mais c'est intéressant de voir tous les docteurs, par exemple.
Oui.
Mais j'ai vu, c'est ça, ce que tu dis, là, des espèces de compilations où est-ce qu'on voit les meilleurs docteurs, les meilleurs les meilleurs compagnons. Moi, j'ai été voir les... Parce que c'est le fun geeky autour de Doctor Who. C'est comme, c'est qui la meilleure compagne de Doctor Who? Puis là, t'es là comme, ah non, non, elle, je l'aime, elle, je l'aime pas. Puis tu sais, genre, des niaiseries
ah, ben
même,
oui.
là, tu sais.
Non, il y en a des vraiment c'est mauvaises.
Puis tout ça, tu sais, puis là, on juge ça. Ah, c'est un compagnon. Non, c'est de l'écriture. Fait que des fois, c'est juste, elle est juste mal écrite, tu
sais. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si elle est pas bonne.
Mais non, c'est ça. Fait que je dirais, si tu veux juste découvrir, c'est ça. YouTube, tu sais, check plein d'extraits, puis c'est bien en masse. Tu n'es pas obligé d'écouter les vieux Doctor Who. Ça fait mal.
Ouais, non, c'est ça.
Et
ben,
donc comme... ce qui nous amène à la...
À la nouvelle série.
À la nouvelle série.
Ouais,
en fait-tu, le, quand on écoutait ça, parce que là, vous avez découvert ça à quelle époque? Ça fait à peu près...
Ben, l'année avant que Matt Smith... C'est-à-dire, ils ont annoncé la Matt nouvelle Smith. Saison avec Matt Smith va jouer au mois d'août.
Okay.
Fait que là, nous, on a fait « Hey, c'est quoi Doctor Who? »
Ça, c'est en 2010, genre?
Je pense que oui. Mmh. Ben, on pourrait checker le live.
Ouais, il n'y a pas si loin.
Ben, Matt Smith, il arrive en 2010.
Donc, y avait, donc tu me disais tantôt, il y a un wiki en ligne où il y a genre tout ce qu'il faut savoir sur Doctor Who, c'est ça?
TARDIS.wikia.com.
Wow. OK, puis tout est là, donc. Tu cherches une info, tout est là.
Alors, Matt Smith...
Je le vois en 2011, en tout cas.
C'est peut-être 2010 ou 2011. Mais c'est ça, nous, c'est notre premier contact. Mais là, moi, je serais curieux de savoir, ben, comme Marie-Louise, ton premier contact avec Doctor Who, c'était quoi? Puis comment... Tu sais, y a-tu quelqu'un qui te l'a vendu? Ou t'as juste tombé là-dessus par erreur?
Attends, tu peux... Écoute, c'est... Je pense que ce que j'avais entendu, je pense que ça devait être à / Filmcast.
Ah ouais?
Ouais. Il parlait de Doctor Who parce que c'était la plus longue série télé qui avait jamais existé.
C'est vrai.
Ça, c'est un des détails ouais. importants. Et donc, du coup, puis là, c'était une série de science-fiction que je connaissais pas. Alors, moi, j'étais comme un peu en crise parce que la science-fiction, je faisais connaître ça.
Je connais tout, voyons.
Ben ouais.
Les bonhommes en soude colorée, là, puis tout, puis tout.
J'étais fixée, c'est exactement les bonhommes en soude colorée.
You're fired. Get off the podcast.
j'étais arrête parce que là je suis vexée encore plus. J'avais une double vexation. J'avais la vexation du futur de Steve qui se moque de moi et la vexation de l'époque de réaliser que je connaissais pas Docteur Who. Et donc du coup moi je suis quelqu'un qui est très un peu geek justement. Tu sais mon objectif c'était de commencer au début. Tu sais. C'est de commencer au début. Puis, tu sais, dans ma tête, à moi, je suis un peu bornée. C'est comme genre, je vais commencer au début, le truc des années 70. Puis, je voyais bien que c'était compliqué à voir. Puis, tu sais, j'étais comme... J'avais comme d'autres choses à vivre. Puis, à un moment donné, c'était une jeune fille qui était... Tu sais, j'engageais quelqu'un à stand de prod. Puis, je la rencontre au coin de la rue. Puis, avec une de ses amies. Puis, ils ont toutes... Tu sais, c'est comme 18-19 ans, là, des bien, bien jeunes. Puis, là, elle commence à me parler. On commence à geeker, puis parler de choses que j'aime, parce qu'ils savent que j'aime les mangas, puis ces niaiseries-là. Puis, les autres étaient toutes contentes de rencontrer une madame qui aimait les mangas, tu sais. Ils trouvaient ça vraiment cool, tu sais. puis là, elle commence... Je sais pas pourquoi on est arrivé à Doctor Who, puis elle me dit, « Ah, oh, mais il faut absolument que t'écoutes Doctor Who. » Puis elle me dit, « C'est mélodramatique. » Au bout. Là, moi, tu peux pas me vendre plus quelque chose qu'en me disant que c'est mélodramatique. Je suis une maniaque du mélodrame. J'adore le mélodrame, mais je vais vous dire, c'est très rare, fucking bon mélodrame. Ça n'existe presque pas. Moi, un mélodrame, faut que je braille. Faut que je sois comme détrempée de larmes et que je peux pas m'en empêcher de pleurer. Genre, l'homme est le fan de David Lynch, là, tu sais. Une scène, tu peux pas t'empêcher de pleurer, à moins que t'aies pas de cœur. C'est comme genre. C'est triste, tu sais, puis j'adore ça, j'adore les mélodrames. Donc, quand elle me dit ça, puis elle me dit « commence à 2005 », c'est ça que j'ai écouté, le reste, oublie ça, ça n'existe ouais. pas, whatever, tu sais, à 18 ans, ça n'existe pas, c'est sûr, tu sais. Ça commence en 2005.
Un truc en noir et blanc, quoi?
Alors, après ça, j'ai été comme motivée, puis bon, je suis allée sur Netflix, et puis j'ai commencé, puis là, évidemment, tu commences, t'arrêtes pas, tu sais, genre, j'ai comme... Moi, je suis compulsive, là, quand je commence une série télé, puis c'était bon. Puis
mais quand t'as écouté l'épisode 1 de la saison 1 de 2005...
J'étais déçue, c'était pas fucking mélodrame pantoute, mais c'est pas grave, moi, j'étais hook pareil, tu sais.
Mais la qualité, les... tu sais, parce que... Puis ça, c'est quand on essaie de rentrer des nouveaux gens dans Doctor Who, c'est toujours l'affaire de « Ouais, mais ça a l'air cheap, puis non, tu sais. » La saison 1, épisode 1, tu l'écoutes, puis à un moment donné, il y a un bac de recyclage qui mange quelqu'un, puis il est comme en rubber animé, CG poche, puis...
Ouais, pas super bon le premier épisode.
Ben... T'as pas filé comme « Ah, Fox pour les enfants » ou « Ah, Fox, c'est cheap » ou
non.
C'était quoi ta réaction?
Ben, non, je pense qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait assez Puis j'attendais mon mélodrame, tu sais, j'avais mon nanane.
OK, t'étais motivée par l'attente du mélodrame.
Ouais, ouais, j'avais mon nanane, puis évidemment, tu tombes dans des... C'est pas mélodramatique comme tant que ça, non, mais comme tu dis...
Ça le devient, mais...
Mais il y a des épisodes qui sont émouvants, là, tu sais, comme avec Donna aussi, à un moment donné, quand elle va perdre toute la mémoire de tout, puis elle veut pas, et
c'est
tout.
Moi, triste,
moi, on l'a réécouté tantôt, puis...
Ah, moi, je la trouvais dure, cette épisode-là. Je sentais toute... Ben, bonne, cette comédienne-là, parce qu'elle est pas... Tu sais, c'est pas une pitoune, puis elle a toujours été en conflit avec le docteur.
Ça, c'est quoi? C'est le Runaway? C'est la première fois qu'on la voit, ça?
C'est Donna. Non, non, c'est à la fin.
C'est à la fin.
Donna, c'est un de mes... Moi, ça serait probablement ma compagne préférée, vu son
style. Moi, je l'adore. Catherine Tate est vraiment, vraiment drôle.
Ouais, ouais. Puis, donc, ça a été ça un peu mon histoire avec Doctor Who. Ça a été comme, c'est ça, une attente du mélodrame. Puis, finalement, rembarquer dans une série que je trouvais vraiment bonne. Là, après quelques épisodes, t'as des trucs vraiment bons. Puis, tu donnes toujours une chance à une série. Moi, Breaking Bad, c'est une de mes séries préférées. Ça a pris 2 saisons avant de l'aimer. Là. Pendant 2 saisons,
j'ai écouté
comme
ça. Ah, ouais.
Ouais. Okay. Puis, à la deuxième saison, à un moment donné, j'ai eu un épisode avec l'enfant, là, puis les drogués. Là, ça m'a vraiment scié. Ça, c'était très mélodramatique, justement. Là. T'sais, j'avais comme. Puis après ça, j'aimais ça. Donc. Donc, okay. Tu sais, quand t'entends beaucoup parler d'une série, à droite, à gauche,
tu peux pas t'arrêter au premier épisode.
Non,
là.
Pas pour une série. Faut que tu donnes une chance. Non, parce que tu prends le contexte aussi. Là.
Mais qu'est-ce que t'as aimé dans ces premiers épisodes-là qui était assez pour te garder accroché?
J'aimais bien... Le docteur, je le trouvais pas pire. Je trouvais... Ben, tu sais, je découvrais tout le canon. Donc, tu sais, t'as plein de choses à découvrir. Après ça, tu vas sur Wikipédia, puis tu finis par comprendre des bébelles. Mais c'est sûr que moi, c'est vraiment plus la saison avec David Tennant toi, que j'ai aimé. Mais quand est-ce qu'il apparaît? Moi, mais tu sais, il faut que tu comprennes une chose, c'est que toi, tu penses que je vais écouter un épisode, puis qu'après ça, je vais aller faire d'autres affaires, puis je vais écouter un autre épisode beaucoup plus tard. Ça marche pas de même. Moi, je commence à écouter le truc. Puis genre,
tu binges à chaque fois.
Je vais commencer à l'écouter jusqu'à ce que mon corps soit plus capable. Parce que.
Que ce soit bon ou pas bon, tu vas juste l'écouter jusqu'à temps que tu
ben,
me meurs.
Si je commence à écouter une série télé, j'ai comme. Ouais, non, mais sérieusement, il faut que tu vois, là, comme. Tu sais, genre, le pire, c'est quand j'écoute. I Met Your Mother, là, c'est la dernière fois que j'ai écouté une série parce que, tu sais, c'est comme 23 épisodes sur 6 ans, là, ouais. Tu sais. Imagine, moi, j'ai écouté ça en dedans d'un mois, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme je binge. Oui, je suis compulsive au bout, là. T'sais. Donc, du coup, c'est pour ça que tu me dis, t'as pas décroché. Ben, pas vraiment. C'est comme j'écoute un long film, tu sais.
Qui dure 6 heures.
Tu sais, comme genre, la première saison, je l'ai écouté probablement en 2-3 jours, là.
OK. Okay.
Parce que c'est ça. Mais.
Voilà. Sinon, toi qui étais zéro, là, on t'a pas forcé
en fait,
à l'écouter.
Ben, je connais, ben, j'en avais entendu parler souvent, déjà avant quand j'étais encore en Europe, parce que j'ai un très bon copain qui est d'origine britannique, puis ça lui arrivait plusieurs fois de m'en parler de cette série-là. Puis pour moi, c'était un peu comme la série mystère, le truc bien typique Brit, tu sais, ouais. Que on sait pas trop, parce qu'il me disait ouais, mais tu sais, c'est un truc un peu cheap, un peu weird et tout, mais si t'as pas grandi avec ça, tu peux pas trop comprendre, tu sais. Alors j'étais, c'est quoi ce truc Doctor Who machin. Puis en fait, je suis arrivé ici à peu près 12 ans, puis j'étais quand même pas mal, je m'étais bien rapproché de la culture nord-américaine en général, puis de par le cinéma et tout ça, etc. Puis en arrivant ici, puis à force d'écouter des podcasts, des trucs, etc., etc., je me suis rendu compte qu'en fait, en Amérique du Nord, c'est vachement plus populaire qu'en Europe. À moins que ça ait changé maintenant. Ça a peut-être probablement changé, là, surtout depuis la nouvelle série.
Vraiment.
Mais je connaissais le nom, je connaissais un peu vaguement de quoi ça parlait. Je savais qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, mais j'en savais pas plus, quoi. Puis, tu sais, voilà, je vais à Comic-Con, je vois des Daleks partout, je vois des gars habillés machin, Sonic Screwdriver, puis j'étais là, ouais, ou des Cybermen.
Moi, je m'appelle Ramiro
Sabine. Oui, en plus, on a un Sonic Screwdriver là.
Ça va être super fort.
C'est trop cool. Non, c'est parfait. Ah, c'est juste parfait. Ouais, non, il est parfait.
Oui, on a un Sonic Screwdriver.
J'ai un Sonic Screwdriver.
Que j'ai acheté.
Il faut prendre une photo de
moi,
je
suis
parti
avec lui. Ah oui, oui. On va le mettre en ligne.
T'as interrompu, clairement.
Mais et puis c'est ça, puis ça fait un bout de temps, je me dis, ah, tu sais, plus que j'entends des gens qui en parlent, j'entends qu'il y a vraiment, c'est vraiment un truc culte et tout. Je me dis, ah, ça serait cool que je m'intéresse à ça, mais. Où est-ce que je dois commencer, là? Je vais pas recommencer le truc dans les années 60. C'est juste pas possible, là. Déjà, tu sais, même Star Trek, là, si je voulais rattraper le truc, je sais pas où commencer. Enfin, bref. Et jusqu'à ce qu'on se dise, ben là, en fait, le podcast, ça a été la bonne occasion parce que je me suis dit, OK, bah, ça va me donner une motivation en plus, tu sais, pour m'y mettre.
Ouais.
Puis, donc, Marie-Louise m'a fait une liste d'épisodes qui en valaient la peine parce que j'allais pas me taper 4 saisons entières, tu sais. En ce moment, je suis un peu débordé, j'ai 3 enfants. Enfin, c'est un peu la course. Donc, mais Donc, j'ai commencé au premier épisode de la nouvelle série.
Puis le premier épisode, toi, t'as-tu fait l'effet...
Parce que mon pote m'en avait parlé en me disant « Ouais, tu verras, c'est un peu cheap, c'est un peu comme ça. » Donc, en voyant le truc, j'étais là « Ouais, c'est vrai, c'est un peu cheap. » C'est un peu bizarre. Mais il y avait un truc intrigant. Je connaissais Christopher Eccleston pour l'avoir vu dans plein d'autres trucs. Puis c'est un acteur que j'aime bien. Billy Piper aussi, je l'avais déjà vu dans pas mal d'autres choses. Puis c'est vrai que le premier épisode n'est pas très intéressant, mais puis comme toi, moi, ça me prend plusieurs épisodes pour rentrer dans une série. Mais c'est vrai que ça présentait bien le personnage de Rose, puis...
Mais il faut écouter le premier, en fait, c'est ça. C'est...
Ouais, puis c'est ça. Enfin, donc tu m'en as eu, quoi, peut-être sur les 13 de la première saison, tu m'en as peut-être fait voir, quoi, 6-8, je sais pas. On l'avait mise en ligne, la liste d'épisodes. Vous avez vu la liste d'épisodes qu'on a vue, nous?
Oui, je l'ai vue. Elle m'avait fait.
Puis en fait... À mesure que ça avance, là, ça me donne vraiment le goût de m'y remettre, mais de tout voir, tu sais, tout à la suite, là, pour vraiment avoir tous les arcs de tout, parce que je sais que je manque des choses, là. Ouais. J'en ai reparlé avec mon pote, là, dernièrement, là, on chattait, et puis je lui disais, ouais, tu sais quoi, je me suis mis à Doctor Who et tout, puis il était là, oh, c'est trop cool! Ouais,
c'est souvent la réaction. Ouais, c'est... Quand tu dis à quelqu'un que t'as commencé avec Doctor Who, là, c'est comme, j'ai un nouvel ami.
Parce que lui me disait, moi, j'en parle pas avec grand monde, à part avec mon fils, parce que, tu sais, on voit ça ensemble, son fils, il a 16 ans, un truc comme ça. Cool. Puis, donc, lui, il lui a fait connaître ça depuis un bout de temps. Donc, tu vois, au moins, ils suivent ça ensemble. Puis, c'est cool.
Mais ça, moi, mes enfants sont trop petits pour l'instant. Il faut qu'il y ait du début, comme 2005, jusqu'à aujourd'hui, dans l'ordre.
Ouais, c'est clair.
T'sais, le show, plus ça va, plus il s'amuse à s'auto-référencer.
Ouais.
Puis, à justement créer des callbacks à des trucs qu'on a déjà vus, tu sais.
Ouais.
À rappeler des personnages.
Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, quand Docteur change, ils ont tendance à rester dans... Tu sais, je veux dire, il y a comme des bulles, si tu veux. Ouais. Dès qu'un Docteur meurt, tu reviens plus tellement en arrière. T'sais, mais il y a les Daleks restent, les Cybermen restent, il y a des choses qui restent.
Mais t'as les personnages qui vont revenir. T'as des personnages qui ont été, mettons, compagnons avec les Docteurs.
Puis... Ouais, mais là, il y en avait une là, qui est revenue, là, des années
70. Ah, il y a des vieilles compagnons qui reviennent.
Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'as écouté exactement, mais il y a un personnage, une femme un peu plus âgée qui s'appelle Sarah Jane Smith.
Non, je l'ai pas encore vu.
OK. Mais
j'ai lu à propos d'elle, mais j'ai pas encore vu.
Sarah Jane, qui était dans les années 70, c'était une compagnon. Mais là, on fera une parenthèse, là, mais c'est parce que Doctor Who est devenu tellement populaire à cause du reboot en 2005 que là, soudainement, il fallait faire des spin-offs.
Ouais.
Donc, ils ont fait Sarah Jane Adventures, mais vraiment plus pour les enfants. Donc, ils ont pris une ancienne compagnon du Docteur, qui a un ordinateur intelligent, blablabla, puis qu'elle a un petit gars qui est spécial. Puis là, eux, ils ont comme des aventures qu'il y a des aliens puis tout ça, puis des fois ils font des petits crossovers avec Doctor Who ou des mentions de, tu sais, comme le Docteur est dans un épisode de Sarah Jane, puis Sarah Jane est dans un ou deux épisodes
parce
de Doctor Who.
Ils vivent dans le même univers.
Oui, ils sont dans le même, tu sais, ils sont à London, ils sont dans le même univers puis tout ça. Puis après ça, ils ont créé Torchwood. Fait que là, Torchwood, ils font des crossovers avec Doctor Who. Mais tout ça, c'est à cause de l'immense popularité que Doctor Who a pris depuis son reboot.
Oui, parce que
c'est
bien écrit, là. Tu sais, on s'entend, t'es plus dans des épisodes des années 70. C'est comme. Tu sais, c'est ceux qui ont fait Sherlock aussi, hein, si je me trompe
pas. Là, on parle de 2011. Là. Quand Matt Smith est arrivé, c'est Stephen Moffat qui est devenu le showrunner de Doctor Who. Tandis que.
Ça a pris une débarque.
Oui, ça a pris une débarque, on peut en parler plus tard.
Avant, c'était Russell T. Davies.
De 2005 à 2011, c'était Russell T. Davies.
Les meilleures années, selon moi.
Et lui, il était allé faire Sherlock, c'est ça?
Non. Russell T. Davies, lui, il a créé Torchwood, il a créé Sarah Jane Adventures. Puis, quand ça a commencé avec Matt Smith, lui, il est parti.
OK.
Il est parti en même temps que...
Puis Sarah Jane, ça a fini parce que Sarah Jane est morte. C'est-à-dire, la comédienne est morte en 2011.
Ah, OK.
C'est-tu 2011? Il faudrait checker, je m'excuse, je n'ai pas la bonne date.
C'est en 2011, je pense,
Elle est morte d'un cancer, je pense. Fait que ça a fini. Après ça, Torchwood, c'est un peu tombé dans l'oubli. Puis ça a été ramassé par Stars Network, qui ont fait une saison 4, blablabla, tout ça.
OK.
Mais Stephen Moffat, celui a ramassé Doctor Who, il est devenu nouveau showrunner, s'est concentré là-dessus. Et oui, Stephen Moffat a créé Sherlock avec Gatiss, qui est un écrivain, qui est un scénariste.
Ah, OK.
Mark Gatiss a co-créé Sherlock avec Stephen Moffat.
Puis vous aimez pas Sherlock? Parce que c'est bon, Sherlock.
On aime Sherlock.
C'est écrit par Mark Gatiss...
Quand tu écoutes une saison de Sherlock de trois épisodes, l'épisode qui est pas bonne,
c'est celle de
Mark Gatiss. Puis quand tu écoutes les nouveaux Doctor Who, tu fais, ça suçait donc bien Doctor Who cette semaine, c'est écrit par Mark Gatiss. C'est pour vrai, c'est vraiment ça qui se passe.
J'essaie de porter attention.
En tout cas, c'est pas grave.
Non, j'ai vraiment une haine dans mon petit cœur pour... Il est peut-être gentil. Je n'aime pas son travail.
Souvent, les gens sont qui souhaitent très gentils pour essayer d'être rendu où est-ce qu'il est.
Ben, Mark Gatiss est un bon ami de Stephen Moffat. Okay. Puis dans Sherlock, le gars qui joue le frère de Sherlock, qui s'appelle Mycroft, qui est un petit peu riche puis snobby puis tout ça,
c'est lui,
c'est Mark Gatiss.
Ah ouais,
il est comédien.
Mais il est bon.
Bon comédien. Oui, c'est un très bon comédien. Faut juste qu'il arrête d'écrire.
Faut qu'il reste devant la caméra.
Mais bref, on va couper ton histoire de finalement de te commencer à embarquer là-dedans, puis ça te donne le goût d'en écouter d'autres.
Oui, ça me donne vraiment le goût d'en écouter d'autres.
Faut que tu aies au bout de David Tennant, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment et bon. Puis l'autre, après,
c'est
il est sympathique.
C'est vrai que Tennant, il a un charme et une intensité.
Non, c'est moins bon, mais c'est quand même bien.
Qui est vraiment cool, là, tu sais. Mm-hmm. Et tu sais, avant, vous parliez de son dernier épisode, tu sais, quand il est sur le point de se faire régénérer, puis il veut pas. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'il est super intense, mais il y a cet épisode aussi quand il y a Rose qui repart dans l'autre dimension, là. C'est hyper intense aussi, la séparation, là. C'est comme, wow, je m'attendais pas à ça. Mais en fait, c'est plus du tout un truc pour enfants. Enfin, pas du tout, mais je veux dire, c'est devenu beaucoup plus adulte. Alors, en plus, la complexité des histoires,
c'est
devenu un truc.
Mais c'est la beauté, surtout de ces années-là. Toutes les années, David Tennant, puis c'est ça qu'on a comme recatché, parce que nous, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On est rendu vraiment à date avec Peter Capaldi. Puis on trouve moins ça bon, Doctor Who, maintenant. Ouais. Mais là, on écoute les vieux, puis on a écouté quoi? 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 épisodes aujourd'hui. Puis on se disait, c'est fou comment que il y a une innocence dans le show qui fait comme quoi que tu peux mettre tes personnages dans un gros danger, puis là, finalement, ils vont faire comme, ah, fallait juste peser sur ce bouton-là. Puis, tu sais, ça, c'est très chaud pour enfants, c'est très enfantin, tu sais.
Mais le reste est tellement intense, les comédiens sont tellement bons.
Mais c'est pas juste suivre. Ils mettent du vrai drame dedans. Ils vont mélanger cette innocence-là de show pour enfants avec justement du drame plus adulte. Il y a des situations, sans spoiler quelque chose, mais dans un épisode en particulier, il y a une fille qui se suicide. Là. Tu sais, puis c'est sérieux.
Tu peux
là.
Tout spoiler, c'est ce qu'on fait.
Puis c'est pas genre, elle s'est suicidée, puis ah, c'est pas grave, on va faire une twist, puis on va la ramener à la vie. Non, elle s'est suicidée. Là. Ah. Puis c'est sérieux. Puis David Tennant, il le prend vraiment pas, puis il est pas content. Là. Il y a des moments vraiment émotifs puis sérieux là-dedans, puis c'est ça qui est cool. Il y a une espèce de balance de... On a bien du fun, puis le danger, il est vrai, mais il est pas vrai, mais une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui va vivre quelque chose de grave, puis David Tennant, comme tu dis, il est juste trop intense. Il vit, il est intrigué par toute sa face, est juste là.
Mais il transfère les émotions. Si tu le regardes, puis... Tu vis. Tu vis, est aussi assis dans ton salon. Là. Il broye, ben tu broyes, il est en Christ, tu es en Christ.
Quand
aussi,
David Tennant juste... est excité, c'est, tu ris, puis tu rigoles comme une fillette dans ton sofa parce que tu fais comme c'est donc le fun d'être avec lui. Puis quand il est fâché, par exemple, il est fâché, puis tu es comme fuck man, il est vraiment fâché. Il peut faire exploser une planète. Là.
Puis là, un timing parfait. Genre,
il était cœurant, c'était.
Entre la limite du drame et tout à coup, il va te lâcher le.
Ouais.
La petite ligne, tu sais, qui détend tout de suite la situation, tu sais.
Mm-hmm.
Et puis le petit sourire en coin, c'est vrai qu'il est assez parfait. Je connais pas, pour l'instant, je connais juste ces deux-là. Je suis pas allé au-delà de la fin de la saison 3. J'ai vu des petits extraits avec Matt Smith, j'ai vu des petits extraits avec Capaldi, et c'est effectivement pas tout à fait la même chose, mais
c'est juste différent.
Mais, c'est différent, c'est juste que quand t'es accroché à un, c'est tough de t'en accrocher. Comme moi, Tennant, c'est mon docteur.
Ouais. Mais c'est le meilleur de tout le monde. Tout le monde
moi, j'ai pas eu de mal à quitter Christopher
Eccleston. Christopher Eccleston était bon, c'est juste qu'il n'y a pas eu assez d'années.
Ouais. Non, c'est ça,
c'est
lui qui a quitté, je pense.
C'est lui qui voulait s'en aller.
Ça marchait pas.
Mais en même temps, je pense que c'était peut-être pas son truc.
Alors que David Tennant voulait venir, c'est ça.
David Tennant est fan de Doctor Who depuis qu'il est petit.
Qui ça?
David Tennant. David Tennant est marié avec la fille de Peter Davison, le cinquième docteur.
OK.
C'est trop fort.
Avec son beau-père, c'était un docteur.
OK. Puis sa blonde, elle a joué dans un épisode, puis elle a joué le rôle de sa fille.
Ouais, ça, c'est un peu weird. David Tennant joue dans un épisode, puis elle prend le rôle de la fille de David Tennant.
Wow.
OK. C'est n'importe quoi.
Wow.
Non, fait que David Tennant est très geek de Doctor Who. Mm-hmm.
Tu dis c'est n'importe quoi, mais ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup avec cette série, c'est que ça va dans tous les sens, quoi. Genre, tout est permis.
Tu vas jusqu'à la fin de la Terre qui explose.
Oui.
Je l'ai aimé, cet épisode-là du premier épisode. Tu me demandes les épisodes que j'ai aimés dans la première saison.
L'épisode
2, parce que c'était l'épisode 2 parce que je trouvais ça fou, là. Tu sais, j'étais comme, OK, on a commencé le truc un petit peu ordinaire et tout, puis là, on est comme rendu à la fin.
Ouais, c'est ça. Il passe d'un épisode
tu voyais bien
à la maison, un truc complètement.
C'est ça, tu sais, puis...
avec une femme qui a eu tellement de chirurgie plastique que c'est juste un morceau.
C'est ça, c'était drôle. C'est ça, exactement, ça, c'était hyper drôle. Là. Puis ça, c'est un détail, ça, c'est le genre de truc absurde que j'adore. Puis c'est très britannique, tu sais, un petit peu comme ça fait Monty Python, ça fait tout le reste, absolument fabuleux.
Oui, il y a du cynisme et tout. C'est vraiment... Mais j'adore ce truc, ça part dans tous les sens. Quoi. C'est pas juste des voyages, c'est des voyages dans le temps, dans l'espace. T'as des mondes parallèles, t'as des extraterrestres.
Moi, j'aime beaucoup celui de la planète. C'est
des androïdes ou je sais pas quoi, des robots, des machins, des trucs.
Ils sont dans les autos. Ils sont pognés dans les autos tout le temps.
Ah oui, le
Gridlock.
Ouais, c'est excellent. C'était bon, ça.
C'est juste comme... Ce qui est de le fun, c'est un petit côté, je trouve, Twilight Zone, justement, là-dessus, ou X-Files, où est-ce que c'est comme, oui, il y a un truc qui suit, des personnages qui suivent, mais tu peux avoir des épisodes thématiques qui sont vraiment très ficelés. Puis tu sais, avec une proposition.
Il était assez léger, je pense, celle-là, ça, il était pas.
Gridlock était un peu funny aussi, là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais de ce que je me souviens, c'est juste comme plein de voitures.
Mais il y a un personnage de chat aussi, vous voyez,
il y a quelque chose qui est le fun.
Non, mais c'est ces autos qui mettent plusieurs années pour faire 10 miles.
C'est ça.
En fait, il n'y a pas de
c'est
fin.
C'est absurde. Ça fait très BD. On dirait que
ça fait des années que le monde est.
Ça pourrait être Jodorowsky qui est tout seul. Ça fait très, très BD. Mm-hmm. Là,
c'était bon. C'était très bon, ça. Puis bon, et oui, alors après, il y a le fameux Weeping Angels là, qui était assez.
Ça, c'est excellent.
Assez intense.
Qui est un. Puis ça, OK. Qui me fait amener. Je m'excuse, j'ai un peu comme hijacké la session de questions.
non, mais vas-y. Non, mais moi, c'est super bien, là, tu sais, parce que...
C'est un contrôle.
Moi, je découvre plein de trucs, c'est super excitant.
T'sais. Saison 3, un épisode très populaire, puis qui est considéré... Si tu... Comme, moi, j'ai une application dans laquelle je range tous mes épisodes de tous mes shows, whatever. Puis là, je peux les classer par ratings, par... Puis l'épisode de la saison 3 qui s'appelle Blink... Je pense que c'est un des plus hauts. Je pense que c'est le troisième plus haut. Parce que c'est un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Qui est très drôle parce que le docteur n'est pas dedans vraiment.
Ouais. Non,
c'est vrai. Doctor Light.
Il appelait ça Doctor Light. Doctor Léger. Genre, il y a plusieurs épisodes qui sont Doctor Light ou Companion Light. Puis dans celle-là, c'est ça, c'est vraiment excellent. C'est plus comme un mini-film d'horreur dans lequel le docteur apparaît sur des télés ou des messages cachés ou des trucs comme ça. Puis, il y a des gens qui disent, si tu veux amener les gens ou initier les gens à Doctor Who, c'est à travers cet épisode-là.
Ça peut être vrai.
Puis, c'est ça. Là, si tout le monde l'a vu, je veux entendre vos idées là-dessus. Parce que le docteur est quasiment pas là. Puis, pour moi, le fun dans Doctor Who, c'est le docteur. Ouais. Parce que même si l'histoire est un peu ordinaire, il reste que lui est tellement fun à regarder. C'est le gars qui connaît tout, qui parle vite, qui est toujours comme intrigué ou content ou fru ou whatever. Là, tu me dis la meilleure façon d'embarquer dans Doctor Who, c'est un épisode qui est comme non représentatif.
Moi, je ne savais pas que c'est la meilleure façon d'embarquer dans Doctor Who, mais je pense que c'est le fun, une série qui se permet
des coups comme ça.
Des coups comme ça parce que ça a comme. Tu sens comme spectateur que tout va être possible avec cette série-là après. Tu sais, qu'ils vont te surprendre, qu'ils vont t'étonner. Puis cet épisode-là, ben, il est magnifique parce que cette idée-là est géniale.
Oui.
Tu sais, c'est génial. Puis justement, ça. Il est angoissant, puis quand tu découvres c'est quoi qui se passe, c'est horrible.
C'est super angoissant.
puis comment en plus, c'est quoi, c'est un truc de DVD, whatever, puis que le docteur il est pogné dans le passé, puis qu'il réussit à s'en sortir grâce au message qui passe. Tu sais, c'est brillant, là. Je m'en rappelle pas de comment ça se déroule.
Oui, qu'en fait, la conversation qu'elle a, il l'a déjà eue, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'elle peut répondre à. Tu sais, elle peut avoir une conversation avec lui alors qu'ils n'ont pas encore eu cette conversation. Enfin,
c'est un épisode où
fucké comme truc, mais c'est.
C'est le concept du paradoxe, c'est que le passé et le futur, c'est un serpent qui se mange la queue, là. Ça finit jamais. Je fais quelque chose, mais c'est parce que je l'ai déjà fait.
Mais c'est brillamment. Écrit cet épisode-là.
Quoi. Oui.
Mais comme toi, je pense pas que ça soit une bonne introduction
Une bonne introduction.
À la série. Mmh. Tu sais, t'as envie de le voir dans son TARDIS. Puis, tu sais, t'as envie de tout ça quand tu découvres un Doctor Who.
Moi c'est vrai, ça n'a même pas été mon réflexe de dire à Nick, je vais te présenter les épisodes que. Tu sais, moi, je me dis, c'est le fun de comprendre toute la Bible autour. Là, comment ça s'appelle
la mythologie,
le canon, le contexte.
Dans un épisode qui est trop complexe, par exemple, parce que tu ne comprendras rien. Il faut que tu aies avec quelque chose qui se tient tout seul, juste voir comment que le personnage principal réagit dans des situations X. Puis là, à partir de là, si tu as aimé le gars qui est devant toi, puis le personnage autour, là, go, vas-y, puis écoute les autres.
Mais c'est là où
mais
je pense que
c'est trop complexe, ouais. L'épisode.
J'avais une bonne sélection d'épisodes, puis je n'allais pas les voir dans le désordre, là. Je les prenais dans l'ordre parce que c'était important. Toi, tu m'as fait des petits résumés de certains points à savoir dans le canon de Doctor Who, puis après, ok, bah, j'ai vu les épisodes, okay, puis ça a introduit les Daleks, puis ça a introduit les Cybermen, puis ça, c'est là, on découvre.
Ah, moi, les Cybermen, j'ai trouvé ça free. Quand j'ai vu comment ça fonctionnait, là, tu sais, comme que tu prends des êtres humains, puis tu les.
C'est
les Borg.
Non, mais c'est comme les Borg.
C'est vraiment les Borg.
Mais je trouve que les Cybermen sont pires que les Borg, de toute façon.
Ouais. Je vais t'arracher un bras. Puis...
Ils sont vachement plus
impressionnants.
J'ai trouvé ça hyper freakant. Tu sais, pas ce genre de truc, là. Il y a ça, puis il y a dans Fullmetal Alchemist, là, qui a un épisode qui m'a fait le même effet freak, là. Je sais pas, vous avez vu ça, Fullmetal Alchemist?
On a écouté peut-être la moitié de la saison 1, puis on arrête après.
OK, non, mais dans la saison 2 et tout, ouais, je pense que dans la saison 2, il y a un épisode que... C'était pour enfants, là, tu sais. Puis j'étais vraiment pas bien, là, quand j'écoutais cet épisode-là. Mais j'étais vraiment pas bien, là. C'est le truc de la chimère, là, pour ceux qui l'ont vu, là. Ils vont comprendre de quoi je parle. Mais ça me fait le même effet, là, que je me sens... Tu sais, je me sentais juste pas bien... À l'idée du Cyberman, tu sais, qui est comme une...
Ben, c'est une torture.
Là. Ouais, complètement.
Ben, c'est qu'il t'enlève toute ton individualité, puis c'est juste tes composantes biologiques qui vont servir à powerer ou à être dans le suit.
Mais c'est comme t'assassiner sans... Puis c'est comme une souffrance aussi. Il y a une souffrance là-dedans. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de vraiment horrible dans...
Mais je pense que quand t'es rendu un Cyberman, tu le sais plus. Hein,
mais le temps que tu te transformer, par exemple...
Le processus, c'est tu l'entends.
Non, mais en tout cas, je sais pas. Moi,
c'est souffrant pour la personne qui voit son ami devenir un Cyberman, parce que tu sais qu'elle est encore là-dedans, mais qu'elle n'est plus la personne qu'elle était, qu'elle est juste une machine.
Ouais, c'est ça, il y a peut-être ça. Mais moi, ça m'a comme touché. C'est vrai, c'est comme... Je sais pas pourquoi, c'est parce que le truc de la chimère que je vais parler pour le Canadien, c'est le même principe. C'est une personne qui était une personne qui a été...
Déshumanisé.
Pour faire partie d'un autre être, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je trouve que ça me fait freaker. Alors voilà. Si vous connaissez d'autres films là-dessus, vous voulez me faire freaker, c'est ça. puis que tu meurs pas, en fait. Que tu meurs, c'est fini, c'est pas. Mais que tu sois encore vivant. Puis oui, les Borg, il y avait un petit peu ça, mais les Borg, je trouvais qu'ils étaient. Il y avait un petit côté plus. Il fait quelque chose de cute chez les Borg.
De cute?
Et si moi, t'as des implants
ils font rentrer des affaires dans le corps pendant qu'ils sont vivants.
C'est qu'ils ont, ils ont comme une communauté. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont comme quelque chose.
Aucune individualité.
Je sais.
Tu fais partie de la machine.
Je sais, mais
la composante numéro 33.
On te transforme.
Mais qu'est-ce qu'il y a un petit côté communiste?
Sauvagement,
un côté communiste en moi extrême qui aimait le côté genre de. Non, c'est horrible.
On travaille tous pour la même chose.
Mais j'ai pas le goût.
On travaille tous pour la même chose.
Oui, je sais. Mais d'accord, c'est dégueulasse. Les Borg, je veux dire, ça, tout ce que je veux dire, c'est que ça fait moins freaky, là, tu sais, je veux dire, j'ai trouvé ça cool, les épisodes de Cybermen avec les Borg. Les Cybermen m'ont fait plus freaky que les Borg.
Il y a une bande dessinée, à moins que je ne m'abuse, qui est un crossover entre Star Trek The Next Generation puis Doctor Who. Je pense que c'est avec Matt Smith qui arrive dans Next Gen, dans le fond. Puis là, l'affaire, c'est que les méchants, c'est les Cybermen et les Borg.
Non.
Ouais, je l'ai pas lu. Je pense que je vais l'aller.
Oh, wow.
Oh my God.
Le méchant crossover. Ouais.
C'est pas si vieux que ça. Là. Ça fait comme 3-4 ans, peut-être.
Donc, c'est aussi décliné en BD, Doctor Who.
Non,
aussi de la bande dessinée.
Oui. Ben, depuis le reboot, je pense qu'ils ont commencé à faire des bandes dessinées avec Matt Smith.
OK.
Quand Matt Smith a commencé, je pense que c'est IDW, la compagnie. Puis, je sais pas si ça existe encore, honnêtement. Mais moi, je les voyais passer, je les downloadais, mais j'ai jamais eu le temps de les lire, honnêtement. C'est ça. Voilà.
Wow. Ça s'arrête jamais, ce Doctor Who. Il y a tellement de choses, là. En tout cas, je me dis que les scénaristes travaillent fort, parce que...
Mais là, c'est ça. Est-ce que ça s'essouffle? Parce que moi, j'ai commencé à écouter la dernière saison...
Saison 8-9?
Ben, la dernière, pas celle-là qui est là, l'autre d'avant.
Celle qui joue là, OK, l'autre avant. Okay.
L'autre avant, puis j'ai comme décroché, là.
Ah ouais. Ben...
Mais non, on parle du nouveau Docteur.
Avec Peter Capaldi.
Capaldi.
Donc, c'est la dernière saison. C'est fini, là. Il y en a une deuxième là, qui a commencé, non?
Peter Capaldi, il est dans sa deuxième saison.
OK, c'est ça. Donc,
qui vient de terminer.
La première saison de Peter Capaldi, j'ai commencé à écouter le premier épisode, puis j'ai comme... Je sais pas pourquoi les deux premiers épisodes, je pense, puis j'ai comme fait.
J'ai failli tirer la plug.
Faudrait que je me rappelle c'est quoi, honnêtement, mais.
C'est le truc qui se passait avec. Il y avait des tyrannosaures dans l'eau.
Ouais, il y avait avec le personnage.
Puis je tenais des voir eux autres, là, le personnage du lézard, puis du.
Le lézard, sa bonne, puis le sablon.
Ah, mais ça, c'était bordélique. Parce que. Non, mais la saison commence avec Peter Capaldi. Donc, on a un nouveau docteur. C'est déjà, faut s'acclimater à ce nouveau personnage-là. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des ruptures de ton dans l'épisode incroyables. À un certain moment donné, ils sont à Londres, dans l'époque victorienne. Il y a quelqu'un qui se revire vers un carrosse tiré par un cheval, puis la porte est ouverte. Donc, je débarque, la porte est ouverte. Et là, je me revire vers le carrosse, j'appuie sur un bouton, et ça fait « tchoup tchoup » et la porte se ferme.
Ah, OK.
Tu sais, « what the fuck ».
À un moment donné, il lance un journal sur Clara.
Ouais, il pitch un journal vers la fenêtre, vers Clara.
Mais ça
lui
tombe sur la tête,
puis
ça fait
c'est du Mickey Mouse là.
Ouais, il y a un son de cartoon. Ouais. Quoi, tu fais, hey, qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'ai fait le goût juste comme, c'est beau, j'arrête.
Mais est-ce qu'il justifie ça?
Non, jamais.
Ok, donc
c'est
même
pas genre, il y a une race d'aliens qui font en sorte que la vie est un cartoon. Non, c'est pas ça.
Non, ils ont essayé.
Parce qu'il y aurait
plus.
Il y aurait plus. À la limite, ça aurait
été drôle.
Ouais, mais c'était malaisant.
Puis moi, j'ai ma propre théorie.
Tu me décris ça. Puis moi, c'est le genre de truc que j'en ai pas porté attention, mais ça m'a probablement énervé. Parce que j'aime pas ça.
C'est...
Je suis pas très Mickey Mousing, là.
Puis... Ben, si tu le justifies, tu sais, ils sont dans un univers parallèle où tout est mélangé. Ouais, tu te retrouves dans un espèce de truc cartoonesque à la Twilight Zone ou je sais pas quoi. Là,
non,
ou...
c'était out of nowhere. C'était, ah, Gadon, il a décidé de mettre un sound effect. Et
mais
bah.
C'est quasiment si c'était comme une protestation des réalisateurs. Parce que l'affaire, c'est que la saison, ou les saisons avancées, comme la première saison ou la deuxième saison avec Matt Smith, il faudrait que je vérifie, là, mais du moment qu'ils sont rentrés avec The Impossible Astronaut, Doctor Who, c'est devenu comme Lost. C'est-à-dire comme la saison, le show Lost. C'était tellement complexe, tellement épique, tellement de revirements intenses.
Moi, ça devenait compliqué.
Tu set-up quelque chose, puis te répondre pas nécessairement non plus. Là.
OK, ouais. Ils sortent plus de leur...
De leur propre bourbier.
Oui, c'est ça. Il y avait les personnes... Ah ouais, il y avait des méchants.
Ils sont allés trop loin dans le délire.
Était...
Les Silence.
Ouais, c'est
mais
pas pire, ça, cette idée-là.
Le concept des Silence, c'est malade. Hein? C'est juste que le show était tellement dark puis complexe que tu dis, OK, là, c'est vraiment plus un show pour enfants. Comme, plus du tout, là. C'est dark, c'est compliqué, c'est... Hey, fallait que j'aille sur Internet puis que je regarde des time charts. En tout cas, je sais pas si t'as vu l'épisode avec River Song, qui est une fille blonde, qui est dans...
C'est dans la librairie,
j'ai lu à propos de ça, mais j'ai pas vu.
T'es pas rendu à la bibliothèque?
Non.
Ah, bon, ça, ben, c'est... Moi, c'est un de mes épisodes.
River Song est un personnage qui est vraiment le fun, puis elle revient dans les saisons avec Matt Smith. Mais son timeline à elle, c'est comme si elle vit à l'envers du docteur... Pour vrai, là, faut que tu te fasses un putain de graphique pour comprendre.
Ça, c'est okay, dans Hyperion, c'est comme ça, c'est excellent. Vous avez lu Hyperion, le livre?
Non.
Je suis une grosse fan de ce livre-là. Ça va être un autre film, là, mais c'est vraiment, vraiment bon.
Mais quand tu tombes dans les concepts comme ça, l'enfant peut pas comprendre. Il peut vraiment pas comprendre. Il peut se faire une notion brouillée de ce qu'il pense que c'est, mais pour vrai, moi, j'ai de la misère à comprendre, puis je regarde des fucking trucs sur Internet, là, tu sais. Fait que là,
même à date, là où j'en suis, fin de la saison 3, là, il y a des choses qui sont limites. Tu sais, pour un enfant, c'est vachement trop complexe.
Ouais, ça dépend d'un enfant de 4 ans.
Mais
à la limite, il y a un enfant qui en
laisse. Je pense plus que Doctor Who est pour les enfants.
Non.
Ça fait partie du Children's Dramatic Programming.
Toujours.
À la BBC. Mm-hmm. Le budget est là-dedans. Là, c'est sûr, ils en ont pelleté plus parce que c'est devenu tellement populaire, mais il reste que c'est encore classifié. Quand ça gagne un BAFTA ou je sais pas quoi, c'est dans Children's Dramatic Programming.
Mais voyons donc.
C'est un show pour
c'est
enfants.
C'est freak par bout, là, pour les enfants.
Mais...
Moi, justement, les Cybermen, je les trouve freak, en esti.
Ouais, mais c'est quand même des gars dans des sous en plastique. Je veux dire,
oui, mais qui se font charcuter, les gens, ils sont en ligne pour se faire...
Mais ils mettent des personnages d'enfants dans les... Comme ils ont ramené, il y a plus de personnages pour enfants, mettons, avec qu'est-ce qu'on écoute là avec Peter Capaldi, que dans le temps de David Tennant, il n'y avait pas...
C'est quoi les personnages d'enfants avec Peter Capaldi?
Ben avec Clara Oswald, qui est maîtresse d'école, puis une couple de fois, t'as des enfants qui sont là pour un ou deux épisodes,
tu sais. Moi, l'année passée, il y avait un genre de two-parter avec une petite fille black, là, puis j'étais comme, hey, si elle devient la nouvelle compagnon, tu sais, elle a genre 12 ans, là, puis tu fais, oh non.
Mais il essaie, je pense, de ramener ça à travers les personnages
comme ça. Peut-être qu'ils essaient de le recentrer, puis de...
Ben, tout ça pour revenir à, justement, saison whatever, épisode 1 avec Peter Capaldi, qui a des sons de cartoon, puis tout, je me disais, c'est-tu comme les réals qui font, ils veulent qu'on ramène ça pour un film, ben, tain, on va leur faire des sons niaiseux. c'est quasiment ça.
Ça se peut, mais en même temps, tu sais.
Mais après ça,
laisse passer ça, tu sais.
Après ça, c'est aligné, tu sais.
Ouais.
Ah, puis dans le même épisode, il y a des sons de cartoon, puis je pense que ça finit avec quelqu'un qui se lance en bas d'un clocher puis qui meurt. Tu sais, tu fais, Chris, le ton, il est où? C'est quoi le ton de votre show? En tout cas, tout ça pour dire,
weird.
C'est maintenant Stephen Moffat qui run le show et non Russell T. Davies. Puis il y a un gros changement.
Mais est-ce qu'à un moment donné, ça devient bon ou si je suis mieux de continuer à écouter True Detective puis les
non,
autres affaires?
Non, continue
que
quand même.
Regarde, il reste qu'il y a quand même des épisodes qui sont bons. Fait que tu peux pas, fie-toi pas juste sur les épisodes merdiques. Là.
Le un tiers de la saison, depuis 3-4 ans, là, le un tiers de la saison, de chaque saison, est bon.
Okay.
Le reste, c'est questionable ou vraiment pas bon.
Mais pour le un tiers qui est bon, continue d'écouter.
Le problème avec les nouvelles saisons, c'est qu'ils essaient tellement fort de créer quelque chose de épique sur un arc de saison. Tu sais,
oui.
Ok, d'accord, ouais, c'est un peu.
Comme là, soudainement, ok, Rose est importante, mais on l'a un peu découvert, ou je sais pas quoi. Là.
Rose est revenue?
Non, mais je te dis, tu sais, back in the day, là, quand tu dis Rose Tyler est spéciale, puis il y avait du Bad Wolf, mais tu sais pas trop c'est quoi, puis finalement, blablabla.
Oui, puis c'est très subtil, ça commence, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte pendant puis à un moment donné, tous ces petits trucs-là que tu n'as pas vu, tout de quoi, à la fin, ça devient une grosse. Puis c'est le fun, tu sais.
Non, mais ça, c'était le fun, c'était bien bâti.
Tu commences avec Matt Smith, puis. Je pense, saison 1, épisode 1, là, il trouve la fille, Amy Pond, puis c'est comme, t'es pas normal, t'es spécial. Tan. Tu pars avec ça, puis là, t'as des expectations malades. Après ça, il trouve l'autre fille, Clara, puis c'est comme, you're the impossible girl. Puis là, ils te font une grosse affaire avec elle.
Mais
puis...
il deliver jamais.
Non, c'est ça,
jamais,
le problème des nouveaux Doctor Who. C'est que, dans les vieux, ok, je vais dire les vieux, dans le fond, de 2005 à 2011, avec Russell T. Davies, qui est le runner du show.
Mm-hmm.
Le gros problème, mettons, c'est le bouton magique. Donc, on prend le personnage, on les amène à une place vraiment cool, compliquée.
Il y a toujours un peu un Deus Ex Machina.
Oui, il y a ça, il y a un gros problème, c'est compliqué. Comment vont-ils faire pour s'en sortir? Puis il fait, ah, passe-moi ça, bzzz, bing, bing, pouf, ok, ok, whatever. Ça, c'est le gros problème. Mais il reste que les personnages sont cool, le drame est cool, puis les concepts sont le fun.
Je suis complètement d'accord.
Mais là, quand t'arrives avec Matt Smith, qui n'est pas la faute à Matt Smith, là, c'est la faute à Stephen Moffat, qui est le nouveau showrunner, lui, son problème, c'est qu'il va t'amener un concept malade mental. OK? Malade mental. Puis il va te dire, dès les premières minutes de l'épisode, si jamais on passe à travers la porte, l'univers va exploser. Il ne faut vraiment pas passer à travers la porte. Fait que là, tu vis tout ton épisode avec un expectation, puis tout ça. Puis à chaque fois, il passe à travers la porte et il n'y a aucun crise de problème.
Ah, ben, c'est pas grave, finalement.
C'est jamais grave. À chaque fois que tu te fais dire « c'est très grave », c'est jamais grave. Puis
il détruit ses propres idées.
C'est tellement plate qu'il fait ça, parce que chaque fois, c'est ça. C'est genre « ah, elle est morte ». Non. Non, vraiment, non. Si quelqu'un meurt, non. Il est juste pas mort. Oublie ça. Si quelqu'un est en danger, il est pas en danger. Si quelqu'un va perdre la mémoire, il perdra pas la mémoire. Si le TARDIS va exploser, il explosera pas. C'est fou à quel point qu'ils nous mettent un expectation puis ils l'enlèvent tout le temps. C'est le gros problème. J'ai hâte que Stephen Moffat s'en aille. Il y a tellement plein de bonnes idées, mais il faut que quelqu'un, dans le meeting avec Stephen Moffat, pendant le brainstorm, il faut qu'il fasse comme malade ton idée, Stephen. Mais là, on va l'amener à bout, par exemple.
C'est toujours juste... quand c'est lui le showrunner.
Ben, c'est lui le showrunner.
Ouais, c'est ça, lui fait ce qu'il veut. Ouais.
C'est lui qui avait l'idée. Le truc des Angels, c'était son idée à la base.
Oui, Weeping Angels, c'est son idée. River Song, c'est une création à lui.
Puis c'est bon, River Song, c'est bon l'idée de l'homme.
Il y avait quelqu'un d'autre en arrière de lui.
Comme scénariste, il est bon, mais c'est ça, il faut un bon showrunner derrière pour lui dire OK, non, là. Comme tu sais exactement ce que tu disais.
Il faut juste dire comme calme-toi.
Ouais.
Doctor Who, ça reste une très bonne série de science-fiction. On s'entend là dans tout.
C'est le fun.
Dans tout. Puis c'est le fun. C'est ça a un ton fun.
Oui.
Tu sais?
C'est supposé être le fun.
En tout cas, à date, là, ouais. Toute la partie David Tennant, là, c'est tellement enjoyable.
Non, ça, c'était méga
là,
ride. Fun.
Ouais, vraiment. Puis il y a des moments épiques dans cette série. Ouais. Tu sais, on dit tout le temps, ouais, c'est cheap, c'est ci, c'est ça.
Non, c'est pas
mais tout à coup, t'arrives à la fin. Je veux dire, quand t'arrives dans l'épisode de Torchwood, où tu découvres Torchwood, là, puis c'est la guerre. c'est la guerre entre les Daleks et les Cybermen sur Terre, tu sais.
Genre, mais maintenant, comme... tu vas faire
il y a des moments épiques comme ça.
Mais c'est pas
cheap ou des effets spéciaux qui sont pas cool parce que c'est tellement. T'es tellement avec tes personnages, ils sont tellement forts.
Non, mais je pense que c'est du cheap assumé maintenant. Tu sais, comme les Daleks, là, ils sont pas refaits tant que ça. Tu comprends, c'est encore la petite. Tu sais, quand j'ai vu la première fois les Daleks.
La boîte avec le truc.
La façon dont
tu parles,
j'ai comme
ça
me niaise.
J'ai trouvé très cool.
Non, mais c'est sur le coup. Non, mais sur le coup, j'ai comme, voyons, tu me niaises. Ça, c'est vraiment un truc, ça fait 60s. Puis, tu sais. Puis, tu les as pas reconfigurés et tout. Puis, j'ai trouvé, après ça, tu sais, après 10 minutes, t'es comme genre, OK, je comprends, tu sais, je comprends ton truc. Puis c'est vraiment irritant, Dalek, là. Tu sais, quand il parle, là, t'es...
Exterminate!
C'est hyper irritant. Exterminate! Mais, ah, c'est bon. Mais ce que, y a comme une intelligence ou, je sais pas moi, un style, un talent, en fait. Un talent dans la manière dont ils ont repris le cheesy des années 60. Puis c'est pour ça que je trouve pas ça cheap. Parce que cheap, vraiment, boboche, là, c'est comme du monde qui n'a aucune idée de ce qu'ils font puis qui... Tu sais, ils pensent qu'ils sont hot, là.
Mais il reste que, tu sais, la première fois que tu vois un Dalek, tu dis, OK... Ça ressemble à... En Angleterre, ça ressemble à une poivrière. Ça ressemble à des centaines de pepper shakers.
Moi, j'avais fait... Ta blonde, elle avait pris un truc en photo puis j'ai dit Dalek. Elle comprenait pas, mais c'est une espèce de forme un peu en compte. En métal et tout. T'sais. C'était comme... Je pense que c'était un truc de cuisine, justement.
C'est pas vrai, je crois.
J'ai dit, va demander à ton chum. Il est supposé comprendre.
Là, c'est ça, le design... étrangement rappelle les années 60. Ouais. Il y a quelque chose de très... Il y a beaucoup de ronds, il y a beaucoup de petites gogos. Je sais pas, ça paraît que c'est pas un design récent. On design plus les choses comme ça.
Non. Ouais.
Mais cela dit, il est là, il est sur le plateau.
Écoute, il est sur roulette.
Oui, mais il est physique, il bouge, il a l'air d'être fait dans un matériel qui se peut, il est pas en carton.
Puis, et le docteur en a peur, puis tu crois.
Et tout le monde en a peur. Ouais. C'est carré. Fait que là, tu dis, OK, bon, ben c'est parce que ça vient d'une autre planète que ça a l'air de tout ça. Je veux dire, tu sais, c'est... À un moment donné, tu peux toujours te le rationaliser. Puis effectivement, si le docteur te dit « Cette race-là, c'est la pire race au monde, puis ils veulent juste te tuer », puis tu fais « Ouais, qu'ils sont laids, mais ouais, non, c'est vrai, ils veulent vraiment nous tuer, par exemple, tu sais. »
Mais non, mais c'est
puis
clair.
Le moment qu'ils montent l'escalier, tu fais « Oh shit,
ouais, c'est ça. Un moment qui... Oh, wow,
ouais, parce que en tant que fan de Doctor Who, tu vois un Dalek, fait que tu sais, c'est sûr, tu fais un peu de recherche sur Google, puis t'es venu se promener en roulette un peu partout. Là, soudainement, dans l'épisode, il monte des marches. Comme, que... Ah, des marches! Puis il vole.
Fait que je suis pas à l'abri, là.
Mais c'est vrai que même si c'est plus un truc d'enfant, ça, quelque part, ça réveille un peu l'enfant qui est en nous, parce que c'est justement, il y a ce côté.
Il y a un côté naïf.
Ouais, naïf.
Ouais,
voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien, finalement. C'est des sensations qui me parle puis qui me donne le goût de d'en voir plus, tu sais, ou en tout cas de revisiter tout ça, mais de voir tous les épisodes dans l'ordre.
Puis, ouais. Quand on essaie d'initier quelqu'un à Doctor Who, on leur dit toujours, il faut que t'ouvres ton cœur d'enfant.
Ouais.
Parce que, veux pas,
c'est une bonne, ouais, c'est
ça
une
va, il y a des manière. Situations où ils vont s'en sauver en pesant sur un piton. C'est comme ça.
Ouais.
C'est un show pour enfants, Christy. Là. Mais il y a des bouts où est-ce que tu vas être dans ton sofa pis tu vas te sentir vraiment triste pour quelqu'un. Puis c'est ça qui est la beauté de ces premières années.
Ça va passer du simplet au dramatique.
Oui.
Méga, là.
Ouais.
Mm. Tu sais, dans l'épisode qu'on a été tantôt, en tout cas, il y a plein de Daleks, puis il y a tout, puis c'est vraiment, c'est pas drôle, puis c'est la fin du monde.
Quand Rose a.
Ben non, t'as Donna Noble qui sort à peine sur 3-4 pitons en disant 3 phrases rapides, puis tu fais, hein, quoi? Puis les gens se mettent à pousser les Daleks, puis à les tourner en rond comme si c'était des toupies, puis tu fais. Ok, dans un fucking cirque, man! Tantôt, c'était vraiment grave!
Non, ça, c'était deep, 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 puis là, tout d'un coup, t'es juste assis, puis tu regardes ça, puis tu ris parce que.
Parce que c'est juste. Comme, okay, là,
c'est rigolo de voir tes personnages. Ouais. Moi, mais en même temps, c'est. Moi, je l'acceptais. J'étais comme, bah, ok.
Ben, j'avais un léger malaise, mais je l'acceptais quand même parce que je sais que 10 minutes après, je vis un vrai drame parce que là, il faut que.
Oui, tu parles de ça, puis après ça, quand
même. Moi, je suis à côté là, de moi, là, je suis comme. Je pense des fois, je suis à l'opposé de l'autistique, là. Tu sais, j'ai comme. Je suis quelqu'un qui est comme. Tu sais, j'ai fait un bac en physique, je suis super bonne avec les sciences, je suis très rationnelle, mais mon instinct primaire, c'est d'être comme. J'embarque à fond dans n'importe quelle niaiserie qu'on me propose, là, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, Doctor Who, tout de suite, ça va, c'est un match, là, tu sais, comme... Puis en même temps, il y a des choses qui m'énervent, là, c'est vrai que quand on fait le podcast, je reviens toujours, moi, j'aime pas ça, là, des explosions dans l'espace, puis du bruit, puis des affaires là-même,
t'sais. Ah, mais là, vis avec, sinon ça serait plate. Ben, il y a Battlestar Galactica, là, que c'est pas pire, là,
ouais.
Pour le bruit,
ouais.
Dans l'espace.
Le son, il est écœurant dans Battlestar Galactica.
Non, non, mais moi, je suis contre le bruit dans l'espace.
Je sais, mais il y a pas de bruit dans l'espace dans Battlestar
Galactica. OK, c'est ça, merci.
Mais il y en a, mais il est très mouvé.
Mais Battlestar Galactica, j'ai une grosse fan, j'ai beaucoup aimé la série, là. Je l'ai trouvé très bien, le reboot.
Mais c'est du bruit dans l'espace, come on, t'as pas le choix, là.
Non!
Ah, dude, ça serait fucking plate, comme, et on coupe à
Mais c'est une convention. Tu écoutes, tu vis avec.
Oui, mais regarde.
Fais,
oui, non, c'est ça.
Mais regarde, je crois que tout le monde
le sait. C'est comme tout le monde le sait. Mais tu l'acceptes parce que, c'est comme tu dis, c'est plus fun. T'sais.
Non, moi, je trouve ça épais. Là. Armageddon, j'ai haï ça pour ça.
Non, mais Armageddon, okay, d'accord.
C'est sérieux, cette là.
C'était pour ça que je l'ai haï. On l'a couvert avant Armageddon. C'était très drôle. Quand on a fait le podcast sur Armageddon, je me suis endormie à la fin.
Parce qu'on a fait. Oui, Armageddon, on a fait.
J'étais endormie.
Oui, c'est parce qu'en fait, on a fait.
Il y a quelques épisodes
qu'on fait des commentaires. On a fait 2001, on a fait Armageddon.
On a juste fait 2001 et Armageddon.
Ah oui, ouais. C'est ça, puis l'idée, Armageddon, on savait qu'on avait tous haï ça, moi, Olivier, puis Yéné. Puis donc, on avait fait 2001 qu'on a adoré parce que c'est 2001, ouais. C'est un grand film. Puis on l'écoutait en parlant, puis en parlant, on était comme plein d'émotions. C'était un super bon épisode. Ouais, c'est un de nos meilleurs épisodes, je pense. Puis après ça, on a fait Armageddon.
C'était plus pour le film, mais c'est vrai qu'à la fin, on pouvait plus.
Écoute, tu fais un commentaire d'un film que t'aimes pas, c'est excellent.
Ah oui.
Sauf qu'à la fin, t'avais Nick puis Olivier qui osaient en parler, puis moi, je me suis juste carrément
endormie. Ça ronfle à côté.
Vraiment. J'étais vraiment fatiguée à ce moment-là, ouais. Mais c'était j'avais zéro intérêt pour le film, puis finalement, le podcast.
Il faudrait qu'on s'en fasse un de petits commentaires.
Mais oui, il faudrait qu'on choisisse un film qu'on a bien aimé.
J'aimerais ça, moi.
Oui, ben on s'en sort pas drôle. Oui, c'est super drôle. Tu mets le film, puis là, tu.
Puis on jase pour le truc, tu sais.
Mais il faudra trouver un qu'on peut vraiment bitcher.
Ben, nous, on voulait faire
un. Ou alors un film à controverse, tu sais, où on n'est pas tous d'accord sur le film. Certains n'aiment pas du tout, puis d'autres adorent. Puis là, ça donne des conversations intéressantes aussi.
Chicaner, par exemple.
Ouais, ça peut être
drôle. On peut attendre que le prochain Transformers sorte, puis là. On lui déchirera un cul.
On peut prendre des anciens, non?
Ouais, aussi.
Michael Bay, on va le laisser de côté pour un moment.
Oui, parce qu'on a fait Armageddon. On n'est pas obligé un film, il faudrait trouver quelqu'un d'autre, je sais pas.
Ou alors, pour faire plaisir à Olivier, mais pas pour moi, ça serait Independence Day, mais.
Ah.
Ouf. Ça, ouais, j'ai beaucoup de lui, il adore. Moi, on n'arrête pas.
Qui a parlé d'un film
Olivier, Sabino.
Oh, wow, je veux que je fasse un marteau pilon la prochaine fois, je le vois. Parce que...
on est tous d'accord.
Hey, j'ai vu au cinéma. Là.
Moi, j'ai vu au cinéma, j'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée. J'étais fâchée pendant le film. Bon, faut dire, à l'époque, j'étais dans ma petite phase étudiante anti-américaine. Alors, quand il parle de speech, comme quoi les États-Unis vont l'idée la sauvegarde du monde.
Ça me dérange même pas, moi.
Ça m'avait vraiment énervée. Mais outre ça, je trouvais que c'était un film vraiment épais, là. Tu sais, comme les deux geeks qui sont vraiment playboy en passant, là. En plus, ils sont pas juste geeks, mais ils sont vraiment pas laids, là. C'est comme, ils s'en vont craquer un système extraterrestre de même.
Ouais.
Tu sais, ils sont capables de rentrer dans. Comme ça, là, ça leur prend quoi, une heure, je pense, là?
Ouais. Puis ils prennent la peine de faire un virus avec une tête en squelette qui rit. Ouais. Ça a la misère à brancher un Mac et un PC ensemble, tabarnak. Les autres sont capables de faire un virus d'ordi avec une tête qui rit, man. Fuck off, man. Yeah.
Faut qu'on le fasse, cet épisode
macho,
sur Independence
c'était
Day.
C'était macho, en plus. À la fin, ça se termine avec les deux pitounes là, qui arrivent et qui vont comme embrasser leur homme, qui ont sauvé le monde. Puis, tu sais, c'est comme genre... Je peux comprendre dans l'histoire, mais c'était juste comme le message, c'est comme genre... Ouais,
c'est des Américains, c'est
ouais, les Américains c'est font fort. Des bons films.
Vous l'avez vu la bande-annonce? Vous l'avez vu la bande-annonce de la suite de Independence Day?
Ouais, non. Ça a pas l'air. C'est juste
ça se prend hyper au sérieux encore une fois. Ouais.
À part que les vaisseaux sont plus gros.
Ah ouais, mais c'est du, c'est comme Armageddon, c'est le même principe, là, genre. On est les plus forts. Là.
C'est plus gros, puis il va falloir faire.
C'est les films qui font le plus d'argent. C'est ça qui est fascinant. Michael Bay, ses films, c'est les films les plus vendus.
Ça explose. Hein.
Puis moi, je m'excuse. Je veux dire, il y a un côté de moi qui le déteste, mais un côté de moi qui admire son talent.
C'est
incapable de faire ça. Là, ouais.
Il reste que Michael Bay. On dira ce qu'on voudra. Okay. Le problème, c'est ça qui arrive. Je suis sûr, le problème, c'est pas Michael Bay. Ben oui, un peu. Mais c'est souvent les scénarios. Parce que Michael Bay, là, c'est un réal de feu. Ouais. Quand il fait des scènes d'action, là, il fait des scènes d'action, man.
Ouais.
Puis si tu regardes comment il shoot, puis les idées qu'il a, puis comment il met en scène l'action, il est fou braque, là. Il est vraiment talentueux.
C'est vrai.
Mais les films, il reste qu'ils sont trop cons. Il y a des affaires de logique.
C'est vrai que
moi, c'est ça qui
m'irrite. C'est comme le Godzilla, le dernier Godzilla. Je veux dire, c'était super bien filmé, c'était magnifique, c'était beau. Il y avait des années 40. Mais
là, c'était
scénario...
pas lui. Ça n'a rien à voir avec Michael Bay.
Oui, non, c'est le même. Je fais un commentaire.
Il y avait un problème au niveau scénaristique, mais je veux dire, au niveau de la réalisation, c'était superbe.
Ben, ils viennent de dire que Michael Bay réalise bien.
Oui, ouais. C'est juste que.
Boom.
Michael Bay, il a
pas.
T'étais
pas d'accord, il voulait.
Non, mais je suis d'accord, c'est un très bon réalisateur de scènes d'action.
Tu veux dire que le réalisateur Godzilla est un réalisateur supérieur à Michael Bay?
personnellement, je trouve. Ouais,
parce que c'est
de,
vrai
plus
que
de talent.
C'était magnifique, ce film-là.
Au niveau de la mesure.
Mais
quand
le scénario était mauvais.
Non, le scénario n'était pas bon.
C'est quand même le pire scénario, mais avec un excellent réalisateur. Puis t'es comme, tu
ben,
dis, Colin.
On pourrait faire un podcast sur Godzilla.
On l'a fait.
Ah, OK. Parce que j'aurais pu te dire que non, t'as pas raison.
Non, comment ça, t'as aimé le scénario? T'as aimé l'histoire, sérieux, t'as aimé l'histoire de Godzilla.
Pas tant que ça. Mais il reste que c'était quand même dans tous les films de Godzilla au monde que j'ai vu, puis je les ai toutes vues.
C'est bien, mais okay,
c'est bon, ça, quand on va voir, quand on a besoin de canon, on invite.
Il reste qu'il est quand même dans mon top 5.
C'est un film de Godzilla.
C'est un Godzilla. Les films sont toujours bâtis de cette façon-là. Ça prend toujours une heure et quart avant que Godzilla se pointe la face. Tu le vois juste un petit peu une fois de temps en temps. Il y a toujours un truc.
Ah, mais ça
ne me dérangeait pas. Non, moi, c'était le chien américain qui me gossait.
C'était l'hommage à
Spielberg. C'était le personnage le plus plat de l'univers. Puis j'avais toujours une fille qui tenait un cartable ou qui était comme complètement inutile avec un scientifique qui disait pas grand-chose. En fait, le seul personnage intéressant, c'était le jeune homme de 30 ans, blanc, américain, GI de l'armée.
Il était pas intéressant non plus.
Non, il était zéro intéressant.
Mais c'était lui le personnage principal.
C'est lui qui était là à l'écran comme trop, tu sais. Genre.
T'es un humain, parce que sinon ça devient juste un documentaire.
Mais c'est ça que je te dis. Je dis, il y avait plein d'humains, mais c'était comme genre s'il y avait une fille, elle tenait un cartable. Puis, si. C'est vrai!
Ouais, mais il faut qu'il y ait de l'information à quelque part, là. Ça ben peut le pas seul être dans le cloud.
Le seul personnage intéressant disparaît au bout de 10 minutes, c'était.
Bryan Cranston.
Bryan Cranston, ouais.
Qui était un peu. Ouais.
Puis.
Et voilà, et après, voilà, son fiston, il dit rien, il est transparent.
C'est l'exemple parfait, là, de espèce du mythe d'un homme qui est comme genre. Un héros sans rien faire d'intéressant.
Tu parles du soldat, là?
Ouais.
Il a quand même sauvé un bébé, là.
Ouais, ils l'ont sauvé.
On s'en crise. Ce qu'on veut dans un film de Godzilla, c'est on veut voir deux bébites se battre. Mais c'est là le problème. Tu peux pas faire un film avec juste ça.
Ouais.
Parce que sinon, les gens vont déconnecter, vont faire comme je le connais pas, Godzilla, je sens rien pour lui. Ou t'sais. Puis sinon, mais ça fait quoi? Ça fait Pacific Rim qui est beau en maudit.
Mal
mais
qui est plate en maudit. Moi, j'ai eu mal à la tête.
Moi, j'ai vraiment mis mon cerveau à off. Puis
je me suis amusé.
Ah ouais? Là, c'est comme écouter Coldorak, Pacific Rim.
Ah, moi, ça l'a fait. Là, le Elbow Rocket Punch et toutes ces conneries, là, moi, ça marche. je me suis bien amusé. Mais en sortant, c'est sûr que.
J'ai moins de misère avec Pacific Rim qu'avec Godzilla.
Je me suis dit, c'était con, il n'y avait pas d'histoire. Par juste la baston, quoi.
Bref.
Moi, j'ai juste trouvé ça plate.
Ouais, mais tant qu'écouter un truc genre un petit peu nono, là, ça me ramène à la manga que j'aimais beaucoup, là, qui était complètement. Comment ça s'appelait? Si vous connaissez pas ça, faut que je fasse dire ça. C'est comme l'extrême du justement. Tu sais, il y a des extraterrestres. En fait, c'est des gens qui sont comme pognés. Ils se réveillent, ils meurent, mais ils sont pas morts. Ils se réveillent dans une salle. Puis pour survivre, il faut qu'ils tuent des extraterrestres. Ça vous dit quelque chose?
Non.
Non. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est extrêmement cliché. Puis ça prend du temps. Au début, tu penses qu'il se prend au sérieux. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est vraiment une grosse joke, cette affaire-là, parce que ça commence toujours avec des espèces de grosses filles avec gros seins qui ont des guns partout et tout. Puis c'est toujours le gars qui trippe sur la fille qui est comme, tu sais, voluptueuse, puis tu sais, qui est comme l'actrice porno, whatever, tu sais. Puis, pas porno, là, mais c'est genre l'actrice avec des gros seins plutôt. Puis là, après ça, il tue des extraterrestres, mais c'est le même principe, justement, de. En tout cas.
Ça, c'est un manga ou un anime?
C'est un manga. Okay. C'est un manga. Ils l'ont fait en film, mais okay. Japonais.
Ouais. OK.
Faudrait que tu retrouves.
Mais ça, c'est drôle parce que l'histoire est bonne à travers ça. C'est ça que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce que t'as des canons, des espèces de schèmes que l'histoire. On est parti de Doctor Who qu'on est rendu.
Oui, j'étais en train de me dire exactement la même chose. Je me disais, on est en train de digresser à fond, là. Je sais pas comment t'arrives là. Mais...
Excuse-moi, c'est ma faute.
Quoi que là, tu sais, les extraterrestres dans une pièce, machin.
On revient.
Ça pourrait.
And we're back.
Donc,
Je vais retrouver.
Ben, regarde, on peut se remettre Gans. Un petit. Comment t'as dit?
Gans.
G-A-N-T-Z.
J'ai entendu parler de ça.
C'est vraiment bon.
Je pense qu'ils ont fait une série animée aussi.
Ça se peut. Moi, j'ai commencé à lire les mangas, puis le pire, c'est que les mangas, c'est toujours la même histoire. C'est vraiment l'exemple de. T'as une formule, OK? Mais c'est parce qu'il y a une intelligence là-dedans, parce qu'il le sait, puis c'est drôle. À un moment donné, t'as un extraterrestre, il est construit de corps humain tout nu, là, tu sais. Puis il devient gros. Puis c'est de pire en pire à chaque fois. Puis ils y arriveront pas, ils y tueront pas, tu sais. Mm-hmm. Ils seront pas capables de se débarrasser des extraterrestres. Puis, tu sais. Puis plus le truc avance, à un moment donné, j'ai arrêté, là, parce que. J'apprends d'en avoir lu 35, là, t'as compris, mais c'était vraiment très, très drôle.
Il y a 26 épisodes. Ils l'ont adapté.
Ah ouais,
c'est ça.
Ouais.
C'est très, très
bien. Ouais, je me suis dit aussi, là, le titre m'a vraiment parlé.
Ils ont fait un jeu vidéo, un novel, un film live action, un manga, un animé.
C'est un manga à la base.
Ah, wow, ben, c'est marrant, parce que je clique dessus, je veux voir. Là. It was announced. Non, il y a un premier film qui a été releasé le 29 janvier 2011 qui s'appelait juste Gantz. Après ça, Gantz 2 a été screené à San Diego le 22 juillet. Donc, il y a deux films.
Ouais, je pense qu'ils voulaient faire une version américaine. Oh non, c'est Death Note.
Ça ne marchera pas, ça.
Mais bon, on est loin de Doctor Who.
On sait bien. Moi, je propose qu'on se voit un petit... on se voit encore un petit extrait, puis après, on va conclure tout ça. Voilà. If you can't kill, then what are you good for, Dalek? What's the point of you? You're nothing! What the hell are you here for? I am waiting for orders! What does that mean? I am a soldier! I was bred to receive orders! Well, you're never gonna get any. Not ever. I demand orders! They're never gonna come! Your race is dead! You all burn, all of you. 10 million ships on fire. The entire Dalek race wiped out in 1 second. You lie! I watched it happen. I made it happen! You destroyed us! I had no choice. And what of the Time Lords? Dead. They burnt with you. The end of the last great time war. Everyone lost. Bon, alors Doctor Who, on pourrait en parler pendant des heures, ce qu'on disait pendant.
On n'a pas parlé de la musique.
C'est vrai, on n'a pas parlé de la musique.
Faut déjà quand même finir sur la musique. Moi, c'est le dernier truc, je veux juste qu'on mentionne la musique. Ben, ou qu'on mette le lien vers l'espèce de.
Ah oui,
la continuum, l'évolution.
Ouais, l'évolution du thème. Ça, c'est sympa, l'évolution du thème à travers le temps.
Puis c'est une femme qui a composé ça, en plus,
oui,
à l'époque.
Oui, Delia Derbyshire.
C'est vraiment bon.
C'est pas elle qui a composé, celle qui l'a orchestré. Le gars, il s'appelle. Oh man, je peux te googler ça, mais c'est un gars qui l'a composé sur papier.
Okay.
Puis il l'a amené au BBC Radiophonic Workshop, puis il l'a donné à Delia Derbyshire et son équipe, puis on dit fais quelque chose. Fait que là, elle est allée sampler des sons, puis elle a orchestré la tune. Donc les sons fucked up, c'est à cause d'elle. Mais la composition, c'est un autre gars qui s'appelle Maurice quelque chose, je pense. Mais en 2005, si je ne m'abuse, la vraie mélodie principale, l'espèce de oui. Ça, je pense que c'est la vraie piste.
Mmh.
Tout le reste autour, ça a été comme retravaillé. Là. Puis là, mais ça, c'est quelque chose qu'on a perdu avec les nouvelles saisons de Doctor Who, à notre grand désarroi. Il n'arrête pas de changer la toune à chaque année. De 2005 à 2011, c'est toujours la même toune, mais ils font juste rajouter, mettons, des gros impacts de violon ou des trucs comme ça. Ouais. Mais
ça devient de plus en plus...
Oui, ça devient épique.
À l'américaine, tu sais.
Ben, oh, plus juste aventure fou, mais le petit... il reste là en arrière. Tandis que là, à chaque année, depuis que Stephen Moffat run le show... À chaque année.
C'est encore la faute de Stephen Moffat?
Oui, tout est la faute de Stephen Moffat.
Il faut qu'il sache son cœur. Ouais, lui, il faut qu'il soit contrôlé. Lui.
Il faut qu'il s'en aille. C'est assez. Ça fait comme 4-5 ans. C'est assez. Il te
finit. Ou alors qu'il revienne à sa position de scénariste. Et
une fois de temps en temps, oui. Parce que.
Parce qu'il y a des bonnes idées.
Oui, il y a des bonnes idées. Mais il faut le contrôler. En tout cas. Mais la musique, oui, la musique est excellente. La musique est malade.
Mais ça fait partie du mythe.
Oui.
Puis ça participe au fait que ça rend ça épique. Ben, comme.
Puis, tu sais. Je pense que quand on avait commencé à écouter Doctor Who, il y a peut-être une partie de moi qui avait déjà entendu la toune quand j'étais jeune.
Moi, justement. Je pense que moi aussi, parce que ça m'a réveillé quelque chose.
C'est ça, hein? Il y a une partie de ton cerveau qui s'allume, puis tu fais comme j'ai déjà eu peur de cette toune-là, ou je l'ai déjà entendue quelque part.
J'ai eu la même impression la première fois que tu me l'as fait écouter.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Juste cette espèce de progression.
Ben c'est sûr que c'est le genre de truc qui est tellement connu, puis qui a tellement un impact dans la culture que tu l'as entendu quelque part, ou elle a un impact. Elle a une force en tant que telle, là, cette tune-là.
Je sais pas.
Mais c'est fou, hein, tous ces éléments, en tout cas, tu sais, le TARDIS bleu, tu sais, la musique, les Daleks, tu sais, c'est tous des trucs que t'as vu une fois ou l'autre dans ta vie, mais tu sais pas trop c'était
quoi. Le TARDIS bleu, c'est avant de voir le show, j'avais déjà vu
TARDIS bleu. Oui, moi aussi, là, ces images-là, je les connaissais bien.
Ben, puis là, nous autres, on est en Amérique du Nord, là, c'est pas dans notre culture tant que ça. Tu sais, si t'es un enfant et t'as grandi en Grande-Bretagne, même si tu n'écoutes pas Doctor Who, il reste que je change de poste, il doit y avoir des reruns du show et tout ça. T'sais, nous, c'est quoi? C'est quand on était jeunes, on avait 12 chaînes à la télé, puis on a peut-être tombé sur un extrait.
Ah, t'es chanceux, moi j'en avais deux.
Ah, nous autres, on avait le câble chez nous.
Mais moi, j'habitais en Abitibi, puis ça n'existait pas.
On avait Radio-Canada, puis de la neige.
Radio-Canada, puis toutes les autres. Puis, ah oh, oui, c'est vrai, on avait CBC en anglais. Mon frère, le matin, il écoutait, il y avait le show, un petit show d'horreur pseudo pour enfants avec... Suivi de ses amis suite. Mais on pourrait parler beaucoup de Doctor Who encore parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des compagnons. Moi, j'aurais aimé ça de demander, poser des questions à savoir si Doctor Who c'est un macho ou pas. C'est pas clair.
Non, parce que non, c'est pas un macho.
Mais c'est ça. Parce qu'en fait, il y a toujours une jolie femelle à côté de lui.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'elle devient un jour un. Il y a une histoire entre eux à un moment ou pas? Oui, je pense que ça arrive parfois.
Un petit piqui, ouais.
Ben, c'est pas arrivé avec Rose, mais quoi que c'était toujours un petit peu ambigu.
Ouais, certainement
vers la fin, ça devient.
Avec Rose, c'est très clair.
Ouais, tu sais. Voilà, je suis avec Martha. Je suis pas encore avec Donna non plus.
Ben, tu sais, on peut spoiler, mais Rose, clairement, est en amour avec le docteur. Le docteur est en amour avec elle. Ça se conclut.
C'est romantique. Mais ça se conclut vraiment. C'est ça, c'est...
Ouais, mais ça se conclut.
Ouais. Martha, c'est l'histoire poche de ma vie, qu'elle est en amour avec lui, puis lui, pas en amour avec elle. C'est moi, c'est ma vie.
Donna, c'est des best buds.
Ouais. Puis Donna, c'est des chicanes au début. Ouais. Puis l'autre...
Amy Pond,
c'est...
Elle a un petit bout à trip dessus.
Mais après ça, c'est...
Mais elle a un chum quand même.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est weird.
Mais c'est à trip dessus plus comme un mononcle.
Oui, mais parce que Rose a son chum aussi au début.
Puis,
Amy Pond?
Ouais, elle a un petit côté un peu...
Un petit côté, genre, c'est quasiment c'est mon héros.
Mais je pense que la moitié de la saison... Elle tripe dessus, mais après ça, ça devient juste, OK, c'est un gars qui est cool. Mais dans les vieux...
Donc, c'est une option qui se permet, quoi. C'est pas comme...
Ouais, mais le docteur, à date, à ma connaissance, la seule fois où le docteur a dit « je t'aime » à quelqu'un ou que c'est passé proche, c'était vraiment avec Rose.
C'était pas River aussi qui s'est marié avec?
Ben là, c'est ça. Là, il y a River Song, mais ça, là, on n'a jamais vu ça. On n'a vraiment jamais vu le docteur qui est en amour avec River Song que...
Non, parce que c'est...
Il vit à l'envers.
Okay, River, c'est ça, fait qu'elle a assez plein de trucs que lui, c'est pas, dans le fond, ça.
Ouais, puis tout ça, t'auras jamais vraiment réponse à ça. Non. Parce que Stephen Moffat. Tu as besoin d'un schéma sur Internet pour peut-être
you,
comprendre.
Stephen Moffat!
Mais dans les anciens compagnons, de ce que moi, j'ai vu, oui, c'est plus souvent des femmes, mais aussi souvent des gars. Même que dans le premier docteur...
Ça, j'allais poser cette question.
Il voyage avec... Ça, c'est très drôle. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'ils reviennent à un moment donné. Là. Puis il va falloir écrire un scénario puis le renvoyer. Là. Mais...
ben, On devrait faire ça.
La première saison de Doctor Who dans les années 60, le docteur voyage avec sa petite fille. Non, sa fille, mais sa petite fille. Donc, lui, il est le grand-père. Fait qu'il y a une autre fille avec lui. Puis là, ils vont ramasser deux profs d'école. Un gars puis une fille.
OK.
Ils sont un couple, je pense. Mm-hmm. Fait qu'ils voyagent à quatre. Dans le TARDIS. Puis à la fin de la. Dans le milieu de la saison 1, à la fin de la saison 1, le docteur laisse sa petite fille sur la Terre, dans le futur, pour qu'elle participe à la guerre contre les Daleks. Genre. Et comme elle fait partie de la résistance. Okay. Puis il la laisse là. Puis on la revoit plus jamais.
Okay.
Fait que là, on se dit, ben, à quand une histoire où est-ce que le docteur va retrouver sa petite fille?
Ça pourrait être bon, ça.
Puis le pire, c'est que. Toutes les histoires avec Christopher Eccleston puis David Tennant puis tout ça, il dit toujours « I'm the last of the Time Lord. Il n'y a plus d'autres personnes de ma race. J'ai fait sauter Gallifrey. Ta petite fille, tu pourrais aller la chercher. Elle existe encore, elle. T'sais. Mais bon, ça, c'est tombé dans l'oubli.
Mais peut-être moi, par un Dalek, quelque chose comme ça.
Peut-être, mais jamais personne en a parlé.
Puis ça, l'histoire qu'il n'y a pas d'autres Time Lords, ça date juste du reboot, non?
Qu'il n'y a pas d'autres Time Lords? Je vais dire oui.
Parce qu'il me semble que c'était un truc clair dans le reboot. À un moment donné, il y avait Timothy Dalton qui est apparu et qui était supposé avoir quelque chose. Il faisait...
Le Master n'est pas un Time Lord? Non.
Le Master est un Time Lord.
Oh, il est un Time Lord.
Mm-hmm. Ouais. Oui, mais David Tennant pensait que tous les Time Lords étaient morts.
Ouais, c'est
ben, David Tennant,
mais le Master, lui, c'est un Time... Oui, c'est vrai, c'est un Time Lord.
Oui, c'est un Time Lord. C'est l'ennemi juré du Docteur. Ouais, parce
c'est,
que...
c'est un Time Lord qui a viré fou. Là.
Mais lui, c'est ça, c'est un personnage intéressant, ça. On n'a pas parlé aussi du Master, Colin. Tu vois, on n'a pas fini le podcast.
Bon, allez, on repart, on continue, là. Ça fait bientôt deux heures qu'on parle.
Mais on était dans les compagnons. Mais bon, les compagnons, il y a eu des gars, il y a eu des filles. Puis à ma connaissance, puis là, je ne suis pas un expert, là, parce que je n'ai pas tout vu les vieux. Je suis rendu au cinquième docteur, présentement. Là.
Okay.
Ami, voyons, son chum, c'est un compagnon, là.
Oui, Rory. Rory, le chum d'Amy Pond, c'est un compagnon.
Oui, c'est un compagnon.
Pendant un bout de temps, il se promenait, deuxième docteur se promenait avec un jeune Écossais. Vraiment, un doux Écossais qui avait un kilt, là, puis qui était comme... Puis il y avait toujours une fille, ben pas toujours, une fois de temps en temps, une fille qui arrivait, puis des fois deux gars, il était une gang, des fois il était comme quatre. Puis ça donnait du jus au scénariste, parce que là, t'arrivais sur une nouvelle planète, là, alors on se sépare. Fait que là, tu suivais... Le gars écossais, les deux filles et le docteur. Fait que...
Mais c'est intéressant, là.
Non, c'est pas intéressant. Ce que tu veux voir dans un épisode...
Même là, c'est pas intéressant du tout.
Non, mais puis ça a pris du temps avant qu'ils comprennent ça. Là. Ce qui est intéressant, c'est voir le docteur interagir avec du monde.
Ouais.
Pas de voir le gars ou la fille.
C'est le docteur qui
veut
voir régler la situation.
Oui,
ou le problème.
Tu veux le voir parler, tu veux le voir être clever, puis être en charge de la situation ou être dépassé par la situation. Puis tellement de vieux épisodes où est-ce qu'il est juste là, puis il est juste prisonnier, puis il fait rien. Oh mon Dieu, Seigneur. Mais bon. Puis il y a des nouveaux épisodes qui sont comme ça. Il y a des épisodes dans les années de Stephen Moffat, là, où est-ce que le docteur est juste prisonnier, puis il fait rien. Puis tu sais, Christy de bâtard, là, ça coûte combien de millions par épisode à shooter ça, cette affaire-là, puis il fait rien, le bâtard. C'est comme si Sherlock Holmes faisait rien. On veut le voir. On veut le voir interagir, parler. En tout cas.
Ouais, parce que même dans un épisode comme Blink, il n'est pas là physiquement, mais il est là.
Il résout les choses.
Ouais,
c'est
même s'il est en arrière du truc, il essaie de résoudre l'histoire.
Tu le sens.
C'est le héros. On veut triper sur lui. Ouais. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'il fait, on est accroché à ça. S'il ne fait rien, s'il est là à l'écran, il ne fait rien, pour moi, c'est un fail automatique. Là.
Mais le docteur, c'est vraiment un personnage comme clairement semi-divin, tu sais, qui est comme magique. Ouais. Pis,
c'est Sherlock Holmes.
C'est le gars qui en connaît
plus que toi. Puis tu vas croire ce qu'il dit parce qu'il est là.
Il te rassure, c'est ça. Il rassure. Mais moi, c'est ce que j'aimais bien avec le personnage de Donna, c'est qu'elle avait un petit côté... Elle le dominait des fois. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, dans le sens que... Elle se laissait pas faire. Elle était comme genre, non, les choses vont pas se passer comme ça. Puis t'as beau tout savoir, tout machin chouette. Moi, j'ai mon humanité, j'ai ma personnalité, j'ai ce que je suis. Puis je te trouve pas supérieure à moi.
Une personnalité très forte. Donna, ouais. Puis elle était, tu bosses des bécosses, là.
Ouais, mais tu sais, elle était pas impressionnée par. Elle était comme genre, OK, t'es ton entité, moi, je suis mon entité. Puis ton entité, elle vaut pas plus que la mienne. Puis c'était cool parce que dans le fond, t'avais le docteur qui était habitué d'être comme adulé, machin chouette et tout. Puis là, il se retrouve dans une fille qui est comme. What the fuck, tu sais, genre, je m'en fous, moi, je veux pas que lui meure, tu sais. Regarde, tu vas briser l'espace-temps, machin chouette, pis,
c'est ça.
Ouais, il a comme trouvé son match, là.
Ouais, c'était le fun, bon, cette rencontre-là. Ça, c'était bon.
C'est ça qui rend c'est ça qui rend justement le compagnon intéressant, c'est le contraste. C'est pour ça que, là, je m'excuse encore de bitcher, mais...
c'est vraiment fait, mais la
nouvelle compagnon qu'on a depuis 2 ans...
Clara Oswald,
The Impossible Girl, est super le fun si elle avait son propre show.
Okay.
Parce qu'elle est pareille comme le docteur. Pareille. Elle est drôle, elle est intelligente, elle comprend la situation, elle est toujours confiante. Puis là, tu fais, OK, ben pourquoi j'ai deux personnages comme ça de bord? C'est pas le fun, là. Il y a pas de contraste, il y a pas de conflit. T'sais, même avec Rose, il y avait un conflit, parce que le docteur...
Rose, c'est une fille ordinaire.
Elle est ordinaire, mais
c'est
elle a aussi un grand cœur. C'est elle qui ramène le docteur à la Terre. Le docteur, lui, est en mode, j'ai fait sauter Gallifrey, je me sens mal, je suis le dernier de ma race, je suis un peu maussade, nanana. Puis elle est comme... Tu sais, comme quand il veut tuer le Dalek, puis non, tu peux pas le tuer. Elle essaie toujours de le ramener à un côté un peu plus humain, puis ça, c'est bon. Puis à la limite, elle a la tripe dessus, puis lui, il est pas sûr. Puis il y a du conflit, il y a quelque chose. Donna Noble, c'est la fille normale qui, comme, je comprends rien, dis-moi ça en anglais, bâtard, tu sais. Il y a un contraste. Martha Jones, plus flat.
Elle était moins bonne, Martha.
Parce que pourquoi? C'est une étudiante en médecine.
En médecine, ouais.
Elle est intelligente. Elle est trop pareille.
Mais bon, elle a un petit côté naïf qui fait que, quand même, elle est comme tout impressionnée par le docteur.
La fille pas aimée sur le héros.
Si tu as à les classer, malheureusement, ça va sûrement être la dernière. Dans ces 3 ans-là, mettons.
Mais Clara Oswald, c'est ça, elle est vraiment, vraiment trop pareille comme le docteur. Puis elle a peur de rien.
Non.
C'est plate, ça.
Elle est sans peur. Puis, en tout cas, bref. Quand tu seras rendu là, on en parlera. Ça pourrait être un deuxième podcast sur
On s'était dit qu'on devait faire un deuxième podcast sur Battlestar Galactica parce qu'on avait fait la première saison.
Juste la première saison, c'est vrai.
disons, parce que là, on initie Olivier à ça.
Tout Doctor Who, là, c'est juste pas possible.
C'est Nick qui m'a fait découvrir Battlestar Galactica, puis on a dit à Olivier, il faut que tu écoutes ça parce qu'on fait un podcast. Puis
Il connaissait pas ça du tout.
Non, mais il a adoré okay. ça.
Ouais. Ah, c'est un petit bon show, Battlestar.
Ouais. Ah, ouais, c'est vraiment bon.
Oui, non, mais il y aurait un milliard de trucs à dire.
Mais on a quand même fait les essentiels.
Ça fait genre deux heures.
On parle de la musique, des compagnons. OK, oui, on peut arrêter. On fera un petit voyage dans le temps pour recommencer.
Les auditeurs poseront des questions, puis on répondra.
Mais oui, mais si, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a du monde qui veut réagir et tout ça, nous envoyer des petits commentaires ou, tu sais, bitcher sur...
You guys.
Non, c'est pas vrai, lui, il est bon.
Oui, exactement.
Et pour essayer de sauver le cas de Stephen Moffat.
J'ai beaucoup de respect pour lui, pour vrai.
Ouais.
Faut juste qu'on le calme.
Ouais, faut le canaliser.
Oui.
Mais c'est ça, donc en attendant, on se réjouit d'en savoir un petit peu plus à propos de votre projet. Est-ce qu'on peut dire comment ça s'appelle? Ou pas? Même pas, non?
Le prochain projet s'appelle Radius. Radius, en fait, parce qu'on le fait en anglais.
Okay. Ouais.
Puis c'est un thriller fantastique.
On l'a dit à l'intérieur.
Le projet, c'est de tourner à Montréal?
Il faut tourner dans les alentours de Montréal, étant donné le budget assez bas.
OK. Mm-hmm.
On peut pas... Plus tu t'aventures loin de Montréal, plus il faut que tu payes les techniciens cher.
C'est vrai.
Parce qu'il y a des primes de déplacement et tout ça. Mm-hmm. Donc, on veut garder le budget puis le mettre à la bonne place.
Savez-vous quand vous tournez?
Si tout va comme prévu...
Ça serait juin.
OK. Mm-hmm.
Non, on verra, on vous gardera au courant.
Ouais.
On a hâte de pouvoir annoncer tout ça.
Dès que c'est sûr et légal et toute la patente, on va vraiment. On va le dire à tout le monde. Mais comme c'est là.
On va être fatigué.
C'est up in the air.
Non, mais c'est cool, on se réjouit d'entendre plus.
On comprend ça.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était super agréable de vous avoir.
Merci
de
nous avoir
invités quand vous voulez.
Yay!
Pour tout le reste, rendez-vous sur notre site 24quarks.com, 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire ou un rating, ça c'est toujours très, très apprécié. Et puis, on est sur Twitter, @24quarks, et bien sûr, la page Facebook. Et puis, pour nous écrire, pour réagir et tout ça, si vous voulez faire des commentaires, soutenir Stephen Moffat, n'hésitez pas par courriel à 24quarks@gmail.com. Alors encore un gros merci à Caroline Labrèche et Steve Léonard pour leur présence, c'était super apprécié. On se retrouve la prochaine fois, ça sera après les fêtes. Joyeuses fêtes à tout le monde d'ailleurs.
Joyeux Noël.
Happy Hanukkah.
Et puis et à très bientôt. Bye bye.
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 Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Quelle voix. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play a game? 24 secondes.